Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage de destination, une en France, une au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous allons partir pour une destination d'une richesse incroyable. Il faudrait non pas une vie, mais plusieurs vies pour découvrir tous les trésors, mais aussi tous les plaisirs de l'Italie. Son patrimoine est immense. Nous irons à Rome, à Venise, à Naples, à Pompéi. On racontera, c'est Nathalie qui va nous raconter ça, les histoires secrètes des papes. Et puis nous essaierons surtout de comprendre et ressentir ce qui fait tout le charme des Italiens. Ça, ce sera tout à l'heure à 17h. Et puis juste avant, un territoire qui est tout simplement fantastique, qui a séduit des générations de voyageurs, d'explorateurs, d'artistes. Ils sont tous tombés amoureux. C'est l'image même du paradis terrestre, selon Bougainville. Nous partons maintenant en Polynésie. Et on y est déjà. On a envie de s'arrêter, de s'allonger sur la plage pour faire ce grand voyage. Parce que la Polynésie, ça se partage. Nous partons avec tous nos amis voyageurs. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Nathalie est là, l'auteur, grande voyageuse. Et puis Emmanuel Jarry, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et puis Jean-Bernard Carrier du Guillaume Les Planètes.
Yorana, c'est comme ça qu'on dit en tahitien. Bonjour.
Comment vous dites ?
Yorana.
Yorana.
Moi, j'ai pas le collier de fleurs pour vous, Jean-Bernard.
Ah oui, oui, c'est dommage. Le collier de fleurs, vous avez raison, exactement.
Faites-nous rêver, Jean-Bernard.
Écoutez, avec 118 îles, je crois que la Polynésie a vraiment du répondant, c'est le cas de le dire. En plein Pacifique, c'est des confettis comme ça jetés sur ce bleu indigo dans le milieu du Pacifique.
C'est immense, hein.
C'est immense, ça fait la taille de l'Europe. Ouais. Plus de 2000 km, elles sont étalées sur 2000 km ces îles, il y a 5 archipels et chaque archipel est très différent l'un de l'autre, donc vous n'allez jamais vous ennuyer dans cet archipel-là. Paysage incroyable à couper le souffle car toutes ces îles sont issues du volcanisme, donc c'est des îles de tempérament. Ouais. Voilà. Et puis un océan pacifique avec toutes les nuances de bleu possibles et imaginables.
Surtout le turquoise.
Et surtout le turquoise.
Que j'aime beaucoup.
Exactement, je crois qu'on va beaucoup en parler pendant cette émission.
On va rêver. Nathalie Elal, vous êtes dénicheuse d'adresses et d'histoires de célébrités. Qui sont les grands hommes de cette région ?
Alors d'abord, il y a le navigateur Samuel Wallis, qui a été le premier Européen à poser le pied, qu'il avait évidemment marin sur l'île de Tahiti, plus précisément dans la baie de Matavai en 1767. Mm-hmm. Ensuite, l'explorateur et officier de marine James Cook, auquel on doit notamment la découverte de l'Australie au XVIIIe siècle. Il a fait lui aussi plusieurs escales en Polynésie. Je vous en reparlerai tout à l'heure, il y a eu une drôle de fin, homme-là. Ouais. Oui, oui. Un autre navigateur, mais un Français celui-là, Louis-Antoine de Bougainville, qui a donné d'ailleurs son nom aux fleurs, les splendides de Bougainvillier. Il arrive à Tahiti en 1768 et puis il découvre au passage quelques îles de l'archipel des Tuamotu.
Et c'est lui qui disait que c'était le paradis sur Terre.
Ben, on le comprend. Le peintre Paul Gauguin qui s'embarque pour Tahiti en 1891, il a 43 ans, il est à la recherche de nouvelles sensations et c'est vraiment le premier grand peintre à apprécier, à étudier les arts premiers et puis à en livrer les clés à l'Occident. Et puis enfin, un chanteur doté d'un talent immense. Il a quitté son plat pays pour les Marquises avec la mer du Nord comme dernier terrain vague. Et on le comprend. Hein. Et la France a eu beau lui chanter « Ne me quitte pas ».«
Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots ».
Jacques Brel, eh oui, évidemment, il est parti là-bas en 1975 à bord de son voilier et il y repose pour l'éternité.
Très bien. Et puis, il y a eu beaucoup d'artistes aussi qui ont... C'est difficile de ne pas tomber amoureux de cet endroit.
Je crois que ça n'existe pas, c'est pas possible.
Une fois qu'on y a goûté, seul petit inconvénient, c'est que c'est un peu loin. C'est quoi, c'est combien d'heures d'avion, Jean-Bernard ?
22 heures au plus court.
Ouais, 22 heures et c'est pas direct.
Il y a une escale, là, systématiquement une escale. Voilà. Et un gros décalage horaire.
En fait, c'est ça le plus dur. C'est pas tant les heures d'avion, c'est qu'une fois sur place, vous mangez 12 heures de décalage horaire. Et pour le corps, c'est physique. Hein. C'est
costaud. Un petit temps d'adaptation. Donc, il faut prévoir un long séjour pour s'adapter.
C'est Philippe. Ça, rester longtemps.
Ah, c'est ça le secret.
Ah bah oui, évidemment.
Vous voyez le secret du rédacteur de guide. Voilà.
Rester longtemps.
Je suis obligé de rester longtemps pour m'adapter.
C'est un mois.
Au minimum 3 semaines quand même.
Emmanuel Jarry, vous êtes journaliste spécialisé dans les voyages et la gastronomie. Vous avez créé l'émission l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet. La gastronomie polynésienne, moi, je ne sais pas, j'imagine plutôt vanille.
Ah bah oui. Ah bah la meilleure vanille du monde est française.
Ah vraiment, c'est officiel ça?
Moi, c'est ce que je dis en tout cas. C'est ce que je pense.
Mais il y a d'autres choses que la vanille?
Bah oui, d'abord il y a tous les fruits juteux, gorgés de soleil, il y a les mangues, il y a les ananas, il y a les papayes, vous savez qu'on mange sur la plage avec le jus qui vous coule le long du poignet. Là, comme ça, c'est délicieux.
Bonne formule, ça,
Et puis,
c'est sensuel en plus.
Et en fait, ces fruits, on les cuisine aussi. Ça, c'est très, très bon dans la cuisine polynésienne. Et donc voilà, la vanille des îles sous le vent. J'aime bien dire, c'est un des deux atolls des îles de la société, les îles du vent et les îles sous le vent. J'adore ce mot.
Super. On est jusqu'à 17h en Polynésie. Ne bougez pas, allongez-vous, détendez-vous. Nous serons en ligne dans un instant avec Miss France 2019, Vaimalama Chavez, une Polynésienne qui va nous faire découvrir ce pays qu'elle adore. A tout de suite sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans aucune contrainte, juste le plaisir de s'évader. Et après 17h, vous l'avez compris, je vous emmènerai en Italie. Mais là, tout de suite, nous partons pour ce que beaucoup considèrent comme le paradis terrestre. Nous allons en Polynésie et notre guide n'est autre que celle qui a représenté ce territoire fantastique à l'élection de Miss France 2019 et qui a remporté la couronne. C'est Vaimalama Chavez. Bonjour.
Bonjour, comment ça va?
J'adore votre voix avec ce petit accent qui nous emmène déjà très loin. Vous êtes en direct de Tahiti. Vous savez que cet endroit nous fait tous rêver. Racontez-nous, qu'est-ce que vous voyez autour de vous? C'est comment?
Alors, je vois Mo'uria au loin, je vois des mangues et mon beau-père qui est en train de manger son petit déjeuner, donc j'ai hâte de le rejoindre juste après.
Et quand vous dites « je vois Mo'uria au loin », ça veut dire, parce que pour nous, vous savez, c'est que des mots qui font rêver. Mo'uria, c'est une île polynésienne, ça veut dire quoi? Que vous voyez une mer turquoise, vous voyez des palmiers, qu'est-ce que vous voyez?
Ça veut dire que je vois le soleil qui se lève sur le lagon. Pour le moment, ce sont des couleurs pastel, donc oui. C'est beau, mais le turquoise, il viendra après. Il y a Mo'uria qui prend doucement les couleurs du soleil et son vert qui se révèle petit à petit.
Ah, on y est. C'est formidable. Et alors, vous êtes vraiment une enfant de la Polynésie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous, être polynésienne?
Ça veut dire revenir à la maison. Ça veut dire pouvoir aller à la mer quand on a trop chaud. Ça veut dire aller dans la montagne pour se rafraîchir parce que la nature, ça tient frais. Manger des mangues quand on a faim, tendre le bras pour attraper un fruit, aller pêcher quand on a envie de manger du poisson.
C'est marrant parce que la seule façon dont vous le dites, on a envie de plus rien faire et de vous écouter, et de prendre le rythme, et de se mettre sur la plage et d'attendre. Et alors, comment c'est de grandir sur une île paradisiaque?
Eh bien, c'est-à-dire que vous avez les références parce que vous avez cherché, mais nous, on a grandi avec ça et on n'avait pas d'éléments de comparaison. Donc, on a grandi sur une île telle qu'elle et puis on a bien grandi, on prend notre temps pour faire les choses. Le rythme est totalement différent quant à celui de Paris et on apprécie davantage de pouvoir se lever doucement, de prendre notre temps et puis d'être en famille parce que la famille, c'est l'une des valeurs les plus essentielles en Polynésie.
Vous avez l'impression que le rapport au temps n'est pas le même qu'en métropole ?
Oh non, je trouve qu'en France métropolitaine, surtout, on court après le temps tout le temps et on n'apprécie pas l'instant, on n'apprécie pas le moment présent tel qu'il est parce qu'on est toujours dans l'anticipation, toujours avec une charge mentale conséquente, à la recherche du mieux pour être à un moment à l'aise. Mais même à ce moment-là où on aura tout anticipé, et bien, il y aura quelque chose d'autre qui va arriver après, qu'on va essayer d'anticiper après encore, sans prendre le temps de savourer le moment pour lequel on avait tant travaillé pourtant.
Ah mais vous le décrivez super bien. Mais franchement, c'est ça, Jean-Bernard.
Et c'est dommage parce que du coup, on anticipe toujours tellement tout que on anticipe sa retraite, on a 20 ans et puis après arriver à la retraite, on n'a plus forcément le temps.
Mais alors du coup, ça veut dire qu'on n'anticipe pas en Polynésie?
Ah non, chez nous, ça la coule. Hein. D'ailleurs, on dit bien le rythme des îles, c'est pas pour rien.
Est-ce que c'est pas un petit peu en train de changer, Vaimalama, le rythme, notamment à Tahiti, à Papeete? Moi, je connais très bien vos îles parce que j'y ai passé plus de trois ans de ma vie. Je trouve quand même que le rythme, il est un petit peu plus saccadé maintenant.
C'est vrai que ça a tendance à aller de plus en plus vite, même si, à d'éternel. Résistants comme moi qui essayent de prendre leur temps. Sauf aujourd'hui, j'ai mis mon réveil pour me réveiller avec vous. Et puis voilà.
Alors, donc vous êtes à Tahiti, là. Tahiti, c'est à 12 heures de décalage horaire avec la métropole. C'est à 24 heures d'avion. Comment est-ce que les habitants de la Polynésie voient la métropole? Est-ce qu'ils se sentent proches? Ou est-ce que finalement, c'est tellement à l'autre bout du monde, c'est tellement à l'envers au niveau des horaires, parce que quand il fait nuit chez nous, il fait jour chez vous, etc., que finalement, c'est un autre monde. Comment ça se passe?
Ah non, ça montre qu'il est totalement différent. La seule similitude éventuelle que je pourrais donner, c'est la langue. On parle français ici. Mais autrement, on a des manières différentes de faire. On a notre propre dialecte. Et encore, dans l'archipel de la société, on parle haïtien. Dans l'archipel de Marquise, on parle marquisien. Tuamotu, on parle Paumotu. C'est spécifique à la Polynésie. On a notre propre culture, nos histoires. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre patrimoine.
Alors, la Polynésie, c'est 118 îles. Elles sont réparties sur une surface, je crois, qui est grande comme l'Europe. Donc c'est absolument gigantesque. Quand on veut aller d'une île à l'autre, il faut prendre l'avion. Hein. C'est long, c'est un peu cher. Est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre les îles? Est-ce que vous vous sentez proches les uns des autres d'une île à l'autre? Ou à chaque fois, c'est à nouveau un autre monde?
Eh bien, entre archipels, oui. Mais je dirais que, par exemple, pour aller à l'archipel plus loin, il faut bien entre 3 et 4 heures d'avion.
Ouais.
Voire changer et prendre un bateau pour aller sur l'île la plus éloignée. Ça dépend vraiment. Donc, non, pas nécessairement proche des autres îles.
D'accord. Merci, Vaimalama. On va rester avec vous pour continuer à explorer la Polynésie. Mais on va d'abord vous écouter. Voici Ton nom déjà. C'est un single sorti en 2019, tiré de votre album Good Vibes.
16h-18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tout à l'heure à 17h, nous irons en Italie. Alors là, c'est une terre infinie également. Parce qu'il se passe quelque chose tous les 20 mètres en Italie. Il y a quelque chose de différent à voir tous les 20-25 mètres. Je trouve ce pays merveilleux. Mais tout de suite, nous sommes au paradis terrestre, tout simplement. Nous sommes avec Vaimalama Chavez qui... vous le savez, a décroché la couronne de Miss France 2019. Elle est en Polynésie avec nous en direct. Quand vous retournez en Polynésie, là où vous êtes actuellement, quelle est la première chose que vous faites en général?
Je mange. Je mange local. Mais en même temps, on arrive, il est 22h, c'est l'heure de dîner, vous voyez.
Oui.
Donc c'est cool parce que j'arrive pile poil au bon moment pour surprendre toute la famille et m'accruster à la table.
Et vous faites beaucoup d'allers-retours parce que c'est compliqué, c'est long.
Et non, je ne peux pas malheureusement parce que le voyage est difficile déjà à subir. Il faut faire les 20 heures de vol et puis après il faut encaisser les 12 heures de décalage horaire.
Ouais.
Et puis c'est pas forcément donné. Donc j'essaye de le faire au moins une fois par an parce que j'ai décidé de rester un peu en métropole. Mais si je peux revenir plus, eh bien je reviendrai plus.
Comment vous faites pour supporter les 12 heures de décalage horaire?
Eh bien, j'ai une technique bien particulière qui est faire une nuit blanche avant de prendre l'avion, dormir entre Paris et Los Angeles ou Paris et Vancouver et ne pas dormir entre Vancouver ou Los Angeles et Papeete.
Et ça marche?
Eh bien, disons que ça aide à amortir un petit peu le choc des 12 heures de décalage, mais sinon, faut pas trop de technique et subir, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre, façon de le faire.
Oui, parce que c'est sérieux quand même, 12 heures. Nathalie?
Alors nous, depuis la métropole, c'est vrai que ça nous fait beaucoup, beaucoup rêver, Papeete. Mais à l'inverse, vous, qu'est-ce qui vous faisait rêver avant de venir, par exemple, en France et à Paris surtout?
Mais c'est-à-dire que pour vous, la Polynésie, c'est exotique, mais pour nous, c'est la métropole qui est exotique.
Mais quel exotisme?
Où tout est grand. La Tour Eiffel, l'océan Atlantique, les phares bretons et tout, mais pas ceux qui sont dans la boîte, hein, les vrais touchous qui sortent du four de chez l'habitant.
Gourmande.
Bien sûr. Oui, c'est avéré, hein, je suis vraiment gourmande. Partir regarder Fort Boyard de loin quand on est à terre. ou aller dans le sud pour aller voir l'Espagne ou les gens bizarres qui disent chocolatine. Non, c'est pas des gens bizarres, mais dire chocolatine quand même.
Quelle partie de votre caractère vient de la Polynésie ?
Ah, mais tout. Tout ça, tout ce que je suis, c'est made in Tahiti parce que je porte en moi les valeurs, le patrimoine et la culture qu'on m'a enseigné, l'éducation qu'on m'a donnée, le caractère fort des femmes. Enfin, de la femme que je suis n'est pas unique parce que ici nous sommes toutes avec un bon fort caractère.
Ah oui.
Que quand on n'est pas d'accord, eh ben ça s'entend et ça se sait tout de suite. Que quand on a envie de quelque chose, eh ben on se démène pour l'avoir et que, voilà, c'est comme ça.
Alors,
c'est local quoi.
Ouais, Emmanuel.
Oui, souvent j'ai entendu une expression en Polynésie, on dit être fiou. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est positif, négatif? Ça veut dire quoi?
C'est ni positif ni négatif, mais en gros, c'est faire preuve d'une grande lassitude. D'ailleurs, il me semble que le mot « fiou » a été enregistré dans les dictionnaires. Et en gros, on peut l'utiliser un peu pour tout et n'importe quoi. On peut dire « je suis fiou parce que je suis lasse, je suis fatiguée » ou « t'es vraiment fiou, genre t'es chiant, t'es vraiment pénible, genre j'en peux plus » ou « fiou ». Ah, c'est on coupe court à la conversation, c'est bon, ouais. On s'en va.
Alors, il y a des tas de choses qui, dans l'éducation des enfants, pour nous, sont surprenantes. Est-ce que c'est vrai qu'à l'école, il y a des cours de pirogue ?
Des pirogues, oui, effectivement. Enfin, des cours de sport, on fait en équipe, on va tous dans la pirogue. Alors, il peut y avoir 6 ou 12 places, ça dépend des pirogues en question. Et puis, on rame, il faut être synchro. On appelle ça le pépérou, c'est celui qui donne la direction. Et puis, il y a celui qui est tout devant, qui donne le rythme. Et puis, c'est comme ça, c'est la Polynésie.
Est-ce que, donc, en Polynésie, il y a 118 îles. Est-ce que vous avez une île préférée ? Est-ce que vous avez votre paradis à l'intérieur du paradis ?
Eh bien, je dirais que c'est Tahiti, puisque c'est ici qu'il y a toute ma famille, qu'il y a tous mes amis, que j'ai tous mes souvenirs. Mais j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup aller découvrir d'autres îles. Par exemple, je ne suis jamais allée aux Marquises. Et ça me plairait beaucoup.
Alors, on dit souvent, ne le prenez pas mal, mais vous savez, les gens qui vont en Polynésie, on leur dit souvent, bon, bah, Tahiti, il ne faut pas y rester. Il faut aller dans d'autres îles, voir autre chose. Alors, pourquoi il y a cette légende qui traîne ?
Parce que Tahiti n'est pas la Polynésie française comme Paris n'est pas la France. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des tas d'autres choses à voir. Et c'est vrai que notre culture est diverse en fonction de l'île où on est. Parce que chaque île a une spécificité, a une légende, a une culture et des habitants qui leur sont propres. Ils ont une façon de faire les choses qui ne sera pas la même sur une autre île. Tahiti regroupe un peu tout le monde. Donc si on a envie de vivre une expérience unique en immersion totale, aller voir une autre île, c'est intéressant. Par contre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire et à voir à Tahiti même.
Ouais. Alors, parmi les clichés qu'on a tous, excusez-moi d'être ultra cliché, mais c'est un des trucs sympas, je trouve, en Polynésie, c'est les fameux colliers de fleurs. On a l'impression que c'est un truc pour les touristes, mais en fait, pas du tout.
Ah non, non, pas du tout. D'ailleurs, je dirais même qu'on a tendance à recevoir davantage de fleurs quand c'est nous-mêmes qui revenons à la maison parce que c'est notre famille et nos amis qui nous accueillent à l'aéroport avec notre couronne de fleurs.
Même entre Tahitiens.
Ah oui, surtout entre Tahitiens, parce qu'on compte évidemment sur ça pour tout de suite faire la connexion avec l'île, dans le sens où notre premier contact est olfactif,
ouais.
Parce que nos fleurs sont super bonnes.
Ouais. Et les odeurs, c'est très important là-bas.
Ah oui, oui, surtout dans la nourriture. Vous connaissez le fafarou ?
Non.
Le fafarou, c'est une spécialité locale qui est faite à base de poisson, d'eau de mer, mais c'est du poisson fermenté, alors je peux vous dire que l'odeur... On l'encaisse bien dans ce plat-là.
C'est bon ?
C'est fort. C'est très fort. La question, c'est bon.
Ah, c'est un petit peu le roquefort local.
Ah, c'est fort possible, vous savez. Je ne sais pas du tout.
Et alors, il y a aussi autre chose, pareil, ultra cliché. Hein, je l'ai fait tous, vous ne m'en voudrez pas.
Allez-y.
C'est aussi la fleur sur l'oreille. Et là encore, il y a énormément de femmes tahitiennes qui est polynésienne en général, qui ont cette fameuse fleur blanche sur l'oreille. Et c'est réel, c'est pareil, c'est pas un truc de carte postale.
Alors, elle n'est pas nécessairement blanche. Dès qu'on trouve une fleur dans un jardin, on l'attrape, même si c'est pas notre jardin, on l'attrape et on la met sur notre oreille. Et puis, non, il s'agit d'un ornement. D'ailleurs, ici, on ne met pas que des fleurs à l'oreille. Il nous arrive de faire des couronnes de fleurs pour aller passer la journée dehors, pour aller au travail, pour aller à l'école, pour se promener. Il s'agit de des bijoux locaux.
Merci beaucoup, Vaille. Je vous appelle Vaille maintenant qu'on a sympathisé.
Oui, très bien.
C'est le charme des îles, Philippe.
je sais que vous avez enregistré un album l'année dernière. C'est toujours en cours, ça ?
Exact, c'est vrai. Il a été mis en stand-by parce que bon, la conjoncture actuelle n'est pas favorable à la sortie d'un album. Ouais. Mais effectivement, il est là, il est prêt et il me tarde qu'il sorte, que je puisse partager ça avec vous.
Eh bien, merci beaucoup. On a hâte de l'écouter. Merci beaucoup, Vaïma Lama Chames, de nous avoir raconté votre Polynésie. À très bientôt.
Avec plaisir. Merci, au revoir, à bientôt.
On se retrouve dans un tout petit instant sur Europe 1 avec les histoires palpitantes de Nathalie Elal sur la Polynésie. Car la Polynésie, c'est d'abord des histoires de grands navigateurs. A tout de suite sur Europe 1. Et si on partait, vous le savez, nous sommes sur ce territoire magnifique, grand comme l'Europe occidentale et paradisiaque, il faut le dire, parce que tous ceux qui l'ont vu confirment, ce n'est pas une légende. Nous sommes en Polynésie et Nathalie, il va falloir que vous nous racontiez des histoires de navigateurs.
Ah oui.
Et le capitaine Cook.
Oui, surtout le capitaine Cook qui porte très bien son nom. Vous allez voir pourquoi. Alors effectivement, c'est un grand navigateur, un explorateur très important au XVIIIe siècle. C'est le premier Européen à débarquer sur la côte est de l'Australie, également en Nouvelle-Calédonie et puis aussi dans l'archipel hawaïen. Et c'est lui qui a cartographié toute la Polynésie avec l'aide d'un personnage un petit peu oublié aujourd'hui, un Tahitien nommé Tupaia, qu'il embarque sur son navire parce que Tupaia, lui, il pratique la navigation sans instrument. Il est juste guidé par le ciel et les étoiles, ce qui permet de découvrir de nombreuses îles. Il le guide même jusqu'en Nouvelle-Zélande. Évidemment, Cook va s'attribuer tous les mérites de cette découverte. Bon, il passe l'hiver 1777 à Tahiti avant de donc très mal finir. Un an plus tard, le pauvre capitaine Cook.
Ah bon, capitaine Cook va mal finir.
Oui.
Qu'est-ce qui va se passer ?
Parce que quand il cartographie les îles Sandwich, c'est-à-dire l'ancien nom d'Hawaï, hein, ça s'appelait comme ça au départ, il fait copain-copain avec un roitelet local et puis il repart avec son équipage en direction du détroit de Bering. Il cherche un passage, en fait, vers le nord-est. Mais c'est l'hiver, c'est la fonte des glaces, donc bah, il décide de retourner à Hawaï. Alors ça tombe bien parce que quand il débarque à Hawaï, l'époque coïncide avec une fête de la paix sur l'île où il n'y a pas de conflit entre les tribus. Il pose les armes. Donc Cook va passer un mois avec son équipage à festoyer, puis aussi à forniquer hein, joyeusement tant qu'à faire.
Mais c'était sympa navigateur, il y avait des avantages. Hein.
Oui, au XVIIIe siècle, mais enfin pas toujours, vous allez voir après. Donc au bout d'un mois quand même, le petit roi local le vire gentiment parce que les provisions de l'île sont en train de s'épuiser. Donc Cook lève l'ancre. Mais pas de chance, il est pris avec son navire dans un cyclone. Le mât de misaine est cassé, il faut réparer le bateau. Ils ne savent plus quoi faire, donc ils retournent dans la baie. Mais là, ils ne le savent pas, mais c'est la saison de la guerre qui a succédé à la saison de la paix.
Ah, parce qu'il y avait des saisons.
Mais oui, en fait, quand il est arrivé la première fois, tout le monde avait posé les armes. C'était un peu, voilà, un mois off. Et là, il arrive, c'est le mois on. Les indigènes sont hostiles. Les indigènes volent même un canot, donc Cook, complètement furax, débarque avec 9 hommes armés et ils abattent un homme qui est en fait un chef de tribu. Donc Cook se fait bombarder de pierres, il se retourne, il tire sur un homme, mais il est assommé par un gros bâton, il tombe à l'eau, il est poignardé par des indigènes, puis tiré hors de l'eau. Et là, son corps est découpé en morceaux et désossé. Ah bon ? C'est le traitement de faveur hein, qui est promis au chef. Donc ses os vont servir de trophée, sa viande, enfin sa chair, pardon, de nourriture.
C'est connu, la viande de Cook.
Oui, c'est ça.
Capitaine Cook.
C'est bien pour ça que je vous ai dit qu'il avait
c'est
un
connu.
Nom. C'est ce qu'on dit, nomen est omen, hein, le nom est présage, c'est son cas. Et le capitaine qui a pris le commandement des navires à sa place fait tir au canon sur les indigènes qui finissent par restituer les restes du malheureux capitaine Cook qui sont déposés ses restes dans une boîte, puis immergé dans l'océan lors d'une cérémonie. Évidemment, les requins finissent le repas. On peut dire que Cook a presque fini en sandwich entre deux tranches de fruits d'arbre à pin.
Eh ben, voilà. Quelle histoire. Oui. Ça a des avantages et des inconvénients.
Voilà, vous n'êtes plus tout à fait sûr de vouloir être explorateur au 18e. On est d'accord.
Mais c'était des hommes d'un courage en même temps extraordinaire.
Oui,
parce
oui.
Ils allaient en Australie dans des bateaux en bois. Enfin, on imagine, sans du tout les instruments que nous avons aujourd'hui. C'est vraiment, moi, je suis fasciné par le courage des navigateurs de l'époque.
Oui, je ne voudrais pas finir dans l'estomac d'un requin, simplement.
Alors les tatouages, pour parler de la Polynésie, il y a beaucoup d'histoires autour de ça aussi.
Oui, alors c'est assez fascinant, hein. C'est culturel, c'est identitaire. Et puis quand on parle de tatouages polynésiens ou maori ou encore tribal, hein, c'est ça. Ouais. On se réfère évidemment à tous les peuples indigènes qui habitent en Polynésie. Alors pour la petite histoire, c'est encore notre James Cook qui a été le premier à introduire le tatouage en Europe en 1771 grâce à un Tahitien qu'il avait emmené avec lui. C'est comme ça que c'est apparu en Europe.
Mais alors comment ça se passait? Tout le monde était tatoué? Les hommes et les femmes?
Mais en fait, c'est un symbole, hein, le tatouage. Ça servait autrefois à embellir les corps et les visages des hommes et des femmes, mais surtout à démontrer l'appartenance à un groupe social et puis aussi un statut social. Et plus les hommes étaient tatoués, plus leur prestige était grand. Et à l'inverse, lorsqu'un homme ne possédait pas de tatouage, ouais, il était méprisé par ses proches. Et puis les femmes, elles étaient tatouées aussi. Alors différemment, hein, elles se faisaient tatouer au moment de la puberté pour prouver qu'elles étaient en âge d'avoir des relations sexuelles. C'était un peu un signal clignotant, hein, voyez. Donc les mains, les bras, les pieds, le visage, c'était un peu plus une parure et c'était moins orné que les hommes.
C'est une tradition très ancienne?
Ah oui, c'est impossible à dater. Certains parlent même du tatouage polynésien comme du premier tatouage de l'histoire.
Ah bon?
Alors il y a quand même une technique très rudimentaire, hein, là-bas. Enfin, il y avait. Parce que pour effectuer les tatouages, les tribus utilisaient un manche en bambou sur lequel était fixé un objet pointu, alors soit un os d'oiseau, soit un morceau de nacre ou même une dent de poisson. Et puis, il utilisait le tatoueur un marteau pour faciliter la pénétration du colorant dans la peau. Donc, j'imagine que la séance devait être super douloureuse.
Mais ça pénétrait comment? Avec quoi? Une aiguille, hein?
Ben, je vous dis, un morceau d'os ou de nacre ou une dent de poisson.
Ah.
Ça servait
directement, c'était
ça
qui rentrait.
Ça remplaçait l'aiguille, ah, en fait. Donc, ça devait être super douloureux, donc effectivement une marque de fierté, j'imagine, pour le valeureux Tahitien qui se faisait tatouer, ou Polynésien, oui, qui se faisait tatouer.
Mais c'est étonnant d'ailleurs que quand on entend ça, parce que c'est d'une beauté et d'une finesse ces tatouages, et pourtant, ouais, c'est fait avec des outils.
Ah bah de vrais artistes, ouais, de vrais, ouais, artistes.
Ah oui, c'est, ouais, des parures artistiques en fait. Ouais.
Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a un trait commun, hein, de tous les peuples polynésiens, c'est la proximité avec l'océan dans le tatouage, parce que l'océan est associé au divin, à la vie antérieure ou à la vie spirituelle, et c'est pour ça que parmi les symboles de tatouages les plus répandus, vous retrouvez des animaux marins comme la tortue et comme le requin, par exemple. Enfin, plutôt les dents de requin.
Mais pourquoi la tortue et le requin?
Parce que la carapace de la tortue, ça représente pour eux la sagesse, l'éternité, la fertilité, l'harmonie et la famille. Et puis, la tortue, c'est un animal très ancien qui vit plutôt très longtemps, donc forcément très respecté. Et comme les Polynésiens croient que la mer, enfin plutôt l'océan, représente la vie antérieure, ils se disent que c'est là où l'âme va après la mort. Et les tortues, elles habitent à la fois la mer et la terre. Donc il y a un côté complètement mystique de cet animal. Voilà pourquoi les Polynésiens pensent que les tortues sont une espèce de guide spirituel qui peut leur montrer le chemin vers une sorte de paix intérieure.
C'est-à-dire que les âmes des hommes vont dans les tortues, c'est ça l'idée?
Non, pas les âmes des hommes vont dans les tortues, c'est la tortue qui symbolise ce passage, si vous voulez. C'est comme un rituel de passage. Ouais. C'est l'âme de l'homme qui va plus loin grâce à la tortue, grâce à la carapace de tortue qui est tatouée.
Et les dents de requin?
Alors, les dents de requin, ça symbolise forcément la force, mais aussi la sécurité et l'adaptation. Il faut savoir que le dieu des peuples polynésiens, il est souvent illustré comme un requin. Le requin, c'est fort quand même, hein, ça a une capacité de résistance totalement hors norme.
Et si on voit souvent des lézards sur,
oui,
les tatouages.
Oui, c'est vrai. C'est un symbole aussi très présent dans cette culture. Alors le lézard, en langue polynésienne, on le dit Jeko, hein. Ça représente aussi une sorte de dieu. C'est un animal très ancien. Là encore, ça vit très longtemps. Là encore, entre terre et océan, comme la tortue. Et les Maoris croient qu'il a une force protectrice.
D'accord. Un dernier petit symbole, vite fait.
Oui, les pointes de lance, parce que pour les Polynésiens, elles représentent la force, l'audace et le courage. C'est l'arme principale, hein, antique, on va dire, des Polynésiens. C'est aussi un outil à plusieurs fonctions qui est très présent dans la vie des hommes. Et c'est pour ça que vous en voyez beaucoup. Et je précise que si vous voulez vous initier lors d'un tatouage, il y a de plus en plus de tatoueurs en Polynésie qui peuvent vous tatouer. Et chaque année en novembre, à Montréal, il y a même un festival qui s'appelle Tatounésia avec des nouveaux tatoueurs experts.
Merci Nathalie Ella. La suivre sur Europe 1, la vanille, la noix de coco, le bon vin de corail. Moi, c'est ce que j'aime bien en Polynésie, le bon vin de corail. Emmanuel Jarry va mettre en valeur tout ça dans un instant sur Europe 1.
Et si on partait, Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tout à l'heure après le flash de 17h, nous partirons en Italie. Alors, c'est un pays extrêmement vaste. On a eu du mal à vous parler de l'Italie parce qu'il fallait faire des choix cruels. Mais on abordera quand même les fondamentaux, les incontournables, Venise, Naples, Rome. Nous irons en Sicile, nous parlerons des papes. Ça va être un très beau voyage. Mais tout de suite, nous sommes en Polynésie, ce qui est pas mal non plus.
Ouais, c'est bien.
Et avec Emmanuel Jarry, pour parler des saveurs de ces îles magnifiques, et puis évidemment de la vanille.
Oui, on commence par la vanille, je l'ai déjà évoqué en début d'émission, je l'ai dit, je le redis, pour moi la meilleure vanille du monde est française, Cocorico. Ah, oui. Je vais vous expliquer un peu comment elle est fabriquée là-bas, parce que alors, la vanille c'est le fruit d'une orchidée, et elle pousse...
C'est une orchidée la vanille? Ah tiens, ça je savais pas.
C'est le fruit de l'orchidée. Et elle pousse traditionnellement à l'ombre d'autres arbres, ou alors sous des ombrières, ça c'est une nouvelle méthode de culture, mais le principe elle-même, c'est-à-dire qu'elle est à l'ombre, fixée sur des tuteurs. Ouais. Et en fait, lorsque la plante a fleuri, il faut féconder les fleurs. Ouais. La vanille est originaire du Mexique. À l'état sauvage, ce sont les abeilles qui fécondent. Ouais. Mais dans les plantations, ce sont les hommes, les femmes en l'occurrence, qui le font. Ça se fait manuellement.
Il y a des fécondeuses de vanille.
Oui, parce que c'est très minutieux. Donc, il faut prendre un petit pic en bois de la taille à peu près d'un cure-dent. Ouais. Il faut relever la membrane qui sépare dans la fleur la partie mâle de la partie femelle, prélever du pollen à l'aide de ce petit pic en bois dans la partie femelle et le déposer dans la partie mâle.
Ah, parce que la fleur ne pouvait pas inventer ça toute seule.
Elle n'y arrive pas toute seule. Et dans la nature, ce sont les abeilles. Dans les plantations, ce sont les femmes. Et en fait, ces femmes, on les appelle des marieuses.
Ah, c'est mignon.
Ouais, c'est joli. Hein. Et 9 mois plus tard, après ce mariage, on récolte un fruit.
Ah, c'est adorable. Et il y a la vanille noire. J'ai jamais bien compris cette histoire de couleur.
Quand elle pousse, au départ, elle est verte et on attend qu'elle soit noire, soit partiellement, soit entièrement pour la cueillir. Mais elle n'a pas encore développé son parfum. Donc, il faut préparer les gousses. Alors là, ça prend des mois. Et c'est un vrai travail assez compliqué. En Polynésie, il y a un diplôme pour faire ce travail. Il faut passer un diplôme préparateur de vanille. Et donc, il y a les bons et les mauvais préparateurs. Et comme partout, il y a les bonnes et les mauvaises vanilles. Donc, on fait sécher les gousses. Ça, j'ai assisté à ça, c'est magnifique. On fait sécher les gousses au soleil pendant plusieurs heures par jour.
Et ça sent bon surtout.
Et ça sent très bon, exactement. Et pendant plusieurs mois. Et après, tous les jours, il y a une période où on les sèche au soleil et après on les enveloppe dans des grands draps et on les enferme dans des coffres. Et là, elles suent. Et elles perdent leur eau. Et c'est comme ça que en fait, le parfum va apparaître. Au bout de 3-4 mois à ce traitement-là, lorsque le préparateur estime que la gousse est prête, il la fait sécher à l'ombre. Et ensuite, étape très importante, chaque gousse de vanille est massée, une par une.
Massée.
C'est des grosses gousses de vanille, la vanille de Tahiti, et elles sont massées une par une pour répartir le grain de façon homogène dans la gousse.
Massées avec des doigts humains les vanilles.
Oui, c'est les masseuses, les masseurs.
Attention quand même à une chose, il faut préciser qu'il y a souvent, malheureusement, pour les cueilleurs de vanille, des allergies de contact.
Ah oui.
Parce que oui, absolument, c'est un fruit qui provoque des allergies de contact. Donc pour les mains, il y a des gens qui font des vraies réactions importantes.
Les masseurs ?
Oui, absolument. Enfin, les masseurs,
je savais pas.
Cueilleurs.
Ah oui.
J'ai fait un livre sur la vanille, justement, c'est une passion que j'ai. Et il y a des allergies. On a vu ça notamment à Madagascar.
Ah d'accord. Alors ils m'en ont pas parlé en Polynésie. Alors je ne sais pas si ça dépend des variétés ou s'ils n'ont pas voulu aborder ce point. Mais en tout cas voilà, elle est massée. Ça répartit les petites graines dans la gousse. Et ça permet aussi de garder cette texture souple. Et c'est vrai que ça c'est particulier à la vanille de Tahiti. Ce sont des très grosses gousses. Ce n'est pas du tout les fines gousses toutes sèches là, qu'on trouve chez nous en supermarché qui ne ressemblent à rien. Elles sont grasses, elles sont souples, elles sont parfumées. Et voilà, moi quand je suis allée visiter ce que vous disiez Jean-Bernard tout à l'heure, ces plantations, et qu'on voit sur ces tables toutes les gousses, il y a un parfum, mais non, dans l'air, quoi. Hein. C'est enivrant.
Ouais,
c'est ça, c'est inoubliable.
Et alors, comment on cuisine cette vanille là-bas?
Alors bon, comme chez nous, on peut en faire des desserts. Elle est beaucoup consommée sur place, mais elle est aussi beaucoup exportée. Et c'est vrai que ça reste un produit coûteux. En revanche, ce qu'on consomme tous les jours, c'est la noix de coco, et qui pour moi est tout aussi fascinante. D'abord, il faut se pencher sur le vocabulaire, parce qu'il y a plein de mots pour désigner la noix de coco. Il y a atiu, c'est le jeune fruit. Alors là, je ne sais pas si mon accent... Ahara moro ati, c'est la noix de coco mûre qui se dessèche mais qui n'a pas encore germé. Ah. Ou alors le ahari uto, c'est la noix...
C'est sûr, vous n'avez pas l'accent, je confirme.
Il faut que je roule l'air avec un... Donc c'est la noix qui a germé. Donc vous voyez, il y a plein de stades de maturité différentes et donc plein d'usages. Alors par exemple, on boit l'eau de coco légèrement sucrée, parfois un peu pétillante, très désaltérante. On fait du lait de coco qui est obtenu en pressant la chair. Et bon, évidemment, elle est utilisée pour plein de choses. Elle est beaucoup utilisée dans la cuisine, dans le poisson à la tahitienne, par exemple. Je ne sais pas si vous avez goûté ça là-bas.
C'est le
poids, voilà, on ne peut pas y échapper. Un poisson, souvent c'est du thon qui est cuit avec du jus de citron vert et puis après on verse du lait de coco et des herbes dessus. Et donc il y a cette petite, cette acidité, cette vivacité du citron et puis la rondeur du lait de coco dessus. Moi j'adore. Il y a l'huile de coco pour le pour fabriquer le monoï. Et on utilise aussi les coques et les fibres de la noix de coco comme combustible pour préparer le ma tahiti, c'est-à-dire le repas tahitien. Et donc ça, je dois dire que quand je suis allée là-bas, c'est très très important dans la cuisine locale. Et donc j'ai fait des pieds et des mains pour me faire inviter à un de ces repas. Et j'ai réussi. Et en fait, je n'étais pas déçue parce que c'est des dizaines d'heures de préparation.
Dizaines d'heures ?
Ouais. Enfin, pas des dizaines, une dizaine d'heures, pardon, ah ouais, de préparation, c'est ouais, déjà pas mal. Ouais.
Et tout ça toujours avec un bruit de mer dans le fond, évidemment. Bah oui. D'ailleurs, en région, on a besoin de vagues, là, c'est pas possible. On peut pas être en Polynésie à sec comme ça sur le sable. Il nous faut de l'eau, des vagues, du lagon.
On voudrait des vagues turquoises.
Des vagues turquoises, s'il vous plaît.
Alors, donc, ces grands repas, c'est vrai, il faut des heures à préparer. Moi, le repas.
Voilà.
La mer est là. Enfin. C'est vrai, vous avez raison.
Vous êtes sûr que c'est pas l'Atlantique, ça ?
Oui, c'est un petit côté Atlantique, ça. Je suis pas sûr. Que... Oui, c'est un petit lagon léger qu'il nous faut.
C'est, pas... c'est peut-être la des Manche, vaguelettes. On a un Normand en régie.
Des vaguelettes, on voudrait, voilà.
Alors, ces repas, grands repas tahitiens pour les fêtes, moi, celui à laquelle j'ai assisté, il y avait une trentaine de personnes, mais il peut y avoir jusqu'à 2000 personnes.
2000
oui, ouais, c'est ce qu'on m'a raconté. Alors, le repas est préparé dans un four, et dans sa version vraiment traditionnelle, le four est creusé dans le sol. Et en fait, tout l'art de la cuisson, et c'est ça qui m'a fasciné, ça consiste à choisir les bonnes essences de bois pour que la combustion dure suffisamment longtemps pour cuire les plats, parce qu'une fois qu'on a fermé le four, on peut plus changer, il n'y a pas de thermostat, vous voyez.
Eh oui, c'est vrai.
Et donc voilà, il faut bien, ça encore, c'est tout un art. Et au fond, alors on met les coques et les fibres de noix de coco, dont je parlais tout à l'heure, hein, pour prendre le feu, c'est un peu notre petit bois dans la cheminée. Et ensuite, on met donc différents bois. On met du sapin, par exemple, parce qu'il chauffe longtemps. On va mettre du bois de goyavier, de pistachier. Et on cuit tout ça, tous les plats, on pose à l'étouffer et après on referme avec des pierres.
Ouais, oui, c'est vrai que c'est très traditionnel et très courant.
Et très courant, oui, ouais. C'est ça. En fait, c'est pas le truc pour les touristes. Hein,
et
vraiment,
comment on pose les plats dedans ?
Oui, alors, les plats, ça aussi, ça prend du temps. En fait, chaque plat est enfermé dans des feuilles de bananier et placé dans des paniers qui sont tressés avec des feuilles de cocotier. Donc, il faut préparer les plats, mais aussi les contenants. Et voilà. Et donc, alors on cuit plein de choses, le poulet fafa, le poulet aux épinards, on cuit des racines, du manioc, etc. Plein de purées, j'ai parlé au début des purées de fruits. Et voilà. Et pendant que les hommes s'occupent du four, les femmes préparent les couronnes de fleurs. Alors moi, je me suis assise avec elles. Et voilà, pendant toute la matinée, on a préparé les colliers, les fleurs, parce que tout le monde, on s'habille, hein, littéralement.
Il y a une élégance.
Ouais, il y a une élégance. Et après, on distribue. Alors il y a les gens qui arrivent avec leurs couronnes de fleurs et d'autres avec qui on les met. Et voilà. Après, on sort. Une fois que tout est cuit, on met tous les plats sur un grand buffet, chacun se sert. Ça fait quand même des grandes tablées avec toutes ces fleurs, avec tous ces plats colorés, tous ces parfums. Et puis à la fin, bah, on joue du ukulélé et on chante.
Et il y a une bonne ambiance.
Et il y a une ambiance
bien,
extraordinaire.
On est détendu,
ouais, ça, c'est vrai.
Relax.
Ouais, exactement.
D'ailleurs, si on avait un petit sonore ukulélé, ça serait pas mal.
Non, non, mais voilà, vous leur en demandez beaucoup, là, quand même. En spontané, comme ça, en direct live.
Il y a un message,
vous êtes dur, passer. Jean-Bernard. Vous êtes dur.
Mais c'est vrai que c'est des grands moments de partage et. Où on retrouve plein de choses de la cuisine, enfin de la tradition polynésienne.
Merci beaucoup Emmanuel Jarry. Dans un tout petit instant, on retrouve Jean-Bernard Carrier pour ses bons plans pour aller en Polynésie. A tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Ça j'adore. La Marseillaise, oui. Alors là, bravo. Là, vous êtes battu Jean-Bernard.
La Marseillaise au ukulélé.
Au ukulélé,
c'est
ouais,
génial.
Voilà. Voilà, voilà.
Bien joué en régie. Alors, bonne nouvelle, les Français de métropole peuvent aller en Polynésie en ce moment, Jean-Bernard.
Oui,
pas souvent qu'on peut dire ça à l'antenne.
Exactement, on va commencer par cette bonne nouvelle. Les vols commerciaux ont repris pour la Polynésie, entre la métropole et la Polynésie, avec Air Tahiti Nui, depuis le 15 juillet. Et c'est une destination zéro Covid, qui est très mise en avant. Donc, il y a juste une petite...
Ça veut dire quoi, une destination zéro Covid?
Il n'y a pas de cas de Covid, à part un cas qui vient d'être décelé, d'accord, qui a été mis à l'isolement. Il faut juste faire un test Covid négatif datant de moins de 3 jours avant le vol. Voilà.
Et c'est pas facile de faire un test qui date de moins de 3 jours.
Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Voilà. C'est la seule condition. Et sur place, il faut faire une petite traçabilité de son itinéraire. Comme ça, si vous êtes déclaré positif, vous pourrez être suivi. Voilà. Donc, il y a vraiment toute une procédure qui a été mise en place.
Mais c'est possible.
Et donc, c'est tout à fait possible. Et c'est même recommandé, Philippe, ouais. Hein, ouais. D'aller en Polynésie maintenant. C'est vraiment le moment où vous aurez des lagons pour vous tout seul.
Vrai, il n'y a pas beaucoup de monde.
Il n'y a pas trop de monde. Voilà. Donc, c'est vraiment le moment d'y aller. Hein. 22 heures de vol, quand même, une petite escale à Vancouver. Et puis, les tarifs à partir de 1 235 € l'aller-retour. Ça reste très raisonnable.
Ah, bah oui. Ouais.
C'est pas donné non plus, mais
non,
c'est...
Non, mais c'est... Pour 22 heures de vol, 15 700 km, faites le calcul, ça reste correct.
Bah, surtout qu'à cette saison, normalement, c'est le double. Hein,
c'est exactement.
Dans une année normale. Voilà. Il y a 5 archipels en Polynésie, on l'a dit plusieurs fois, la Polynésie c'est gigantesque, c'est grand comme l'Europe occidentale. Donc comment est-ce qu'on s'organise, par quoi on commence?
Moi je dis qu'il faut faire un séjour, on me demande toujours combien de temps il faut rester, je dis minimum 3 semaines.
Mais c'est trop peu, il faut 6 mois.
Aussi ça tenait qu'à
6 mois de vacances.
Alors 3 semaines minimum évidemment pour récupérer ce décalage horaire. Et puis surtout, l'idéal c'est de combiner 2 archipels, hein, parce que chaque archipel a sa physionomie, sa personnalité. Pour un premier séjour, je conseille de visiter 4 îles de l'archipel de la société, par exemple Tahiti, Moorea, Wahine et Bora Bora.
Oh l'accent, refaites-moi ça.
Ah oui, je vous le refais, Bora Bora.
Ah oui, c'est pas mal.
Wahine.
Ouais. Vous êtes resté combien de temps en Polynésie?
Moi, je suis allé 15 fois, donc c'est vrai, j'ai quand même quelques heures de vol.
Et c'est vrai, je dis ça pour nos auditeurs, que vous êtes l'auteur du guide Tahiti, Polynésie, Lonely Planet.
Tout à fait, voilà, j'y vais depuis 25 ans, c'est un peu mon deuxième chez moi, mon deuxième Fénois, comme on dit là-bas, ma deuxième maison. Alors,
vous n'avez pas choisi l'Antarctique. Hein, vous pas...
Bah, écoutez, il faut savoir faire les bons choix dans la vie, Philippe.
Vous êtes bien vu par le rédacteur en chef, comment ça se passe?
Est-ce que vous faisiez comme Gauguin là-bas?
Ah non, je suis resté très sérieux sur place. Vous me connaissez, Nathalie.
Bah justement.
Je reviens à mes séjours quand même. Donc, combiner l'archipel de la société et 2 atolls des Tuamotu. Voilà. Et là, vous aurez au moins 2 ambiances complètement différentes.
Ouais. Alors, vous venez de parler des atolls de Tuamotu. On en parle souvent, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial?
Alors là, c'est l'incarnation du paradis bleu, Philippe. Imaginez un anneau de corail large de dizaines ou de centaines de mètres, planté de cocotiers. C'est tout plat. Il n'y a aucun relief. D'un côté, vous avez le lagon qui est turquoise. De l'autre, vous avez l'océan Pacifique d'un beau bleu profond. Les atolls, c'est comme aux Maldives, finalement. Eh ben, dans les Tuamotu, il y en a 77. Il y a toutes les tailles, toutes les formes. Certains sont habités et d'autres pas. On y vit très simplement de la pêche, de la récolte, des noix de coco et du tourisme. C'est ça l'archipel des Tuamotu.
Oh là là, on a envie d'y aller. Mais comment on fait quand on est touriste, justement? Comment on peut les vivre au mieux, ces atolls?
Ah bah c'est le dépaysement absolu, une nature totalement préservée. C'est la déconnexion totale, un sentiment presque vertigineux, je vous dirais, de cette déconnexion-là. Ça commence même dans l'avion quand on les survole. À travers le hublot, on a un choc visuel. On dirait des colliers qui flottent sur le bleu du Pacifique. Quand je dis déconnexion absolue, c'est même pour les Tahitiens. Quand ils vont sur place, ils ont l'impression d'être eux-mêmes au bout du monde.
Ah bon?
C'est
le paradis terrestre, voilà, des Tahitiens. Ils rêvent d'y aller.
Exactement. Voilà. Il y a juste quelques hôtels sur place. On loge chez l'habitant, donc c'est vraiment une immersion aussi culturelle, familiale. Vous êtes vraiment chez les Polynésiens, chez les gens des Tuamotu. Vous apprenez un petit peu de leur quotidien.
D'accord. Et on vit dans quoi? Dans des chambres, dans des... Comment c'est...
Des petits bungalows, des petites pensions de famille, des petits hôtels. Donc c'est vraiment pas un tourisme de masse. Si vous voulez être tranquille, c'est les Tuamotu.
Mais il y a de la place, il faut réserver longtemps à l'avance.
Ouais, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Mais en ce moment, effectivement, le tourisme n'étant pas trop vif, ouais, avec les problèmes qu'il y a, je pense que vous aurez de la place très facilement.
Vous avez un atoll préféré?
Ah, j'adore l'atoll de Rangiroa, c'est le plus grand de tous. Rangi, comme on dit sur place, c'est parce que c'est le fantasme ultime de tous les plongeurs, ouais. Philippe. Il y a un site mythique qui s'appelle la passe de Tiputa. La passe, c'est ce qui met en communication le lagon et l'océan. Ouais. Donc vous avez à chaque marée, il y a des courants, et tous les courants attirent la faune. C'est le grand rendez-vous de toute la faune des environs. Vous avez des raimantas, des dauphins, et surtout des bancs de requins gris partout. Dizaines, on est sûr de les voir de près, c'est vraiment magique.
Mais c'est dangereux?
Mais pas du tout, c'est inoffensif, ces petits roquets, ces requins gris. On fait 5 minutes de zodiaque, on se met à l'eau, on se laisse porter par le courant dans la passe, jusqu'au lagon, et au milieu de toute cette faune, au milieu de tous ces poissons, au milieu de tous ces requins. Je précise que l'eau, elle est quand même entre 26 et 29 degrés, ça devrait vous aller. Ça
fait un peu juste.
Oh non.
Je dirais qu'en fait, pour résumer, les Tuamotu sont à la plongée ce que le Kenya est au safari animalier.
D'accord, et si on plonge pas?
Si on plonge pas, il y a beaucoup d'excursions nautique sur le lagon, vous n'êtes pas obligé d'être plongeur pour en profiter. Là aussi, c'est le fantasme absolu. Cette fois-ci, ce n'est pas de la plongée, mais c'est celui de Robinson Crusoe. On part à la journée sur un îlot, baignade dans l'eau translucide, pique-nique avec du poisson grillé qui vient juste d'être pêché, dégustation de noix de coco. Le guide vous fait une petite démonstration du ukulélé.
sieste à l'ombre des cocotiers qui se dandinent sous la caresse des alizés.
Oh là là, refaites-moi la dernière phrase là.
Ah, ces alizés, la caresse des alizés.
Non, le cocotier se dandine, moi j'aime bien l'image surtout.
Et alors pour découvrir un peu la culture polynésienne, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors ce que j'aime bien dans la culture polynésienne, c'est une culture vivante, c'est pas un musée la Polynésie. On vient par exemple dans les îles de la Société, vous verrez des courses de pirogue, Vaimalama en a parlé, ça c'est quelque chose qui est une partie intégrante de la culture, et aussi la danse polynésienne qui est très présente. Vous assisterez à des festivals de danse très facilement sur place.
Merci beaucoup Jean-Bernard, on a tellement envie d'y aller maintenant, vous êtes presque cruel. Dans un petit instant, après le flash de 17h, une autre destination plus facile d'accès mais tout aussi fascinante, c'est l'Italie. On se retrouve dans quelques instants sur Europe. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h, les infos, Sophie Echen.
45 départements placés en alerte orange canicule du nord à l'Ariège alors qu'une nouvelle vague de chaleur s'installe sur une grande partie du pays pour plusieurs jours. Météo France prévoit un pic de chaleur très intense demain dans le sud-ouest et dans les pays de la Loire, notamment avec plus de 40 degrés attendus. Au moins 40 Français ont été blessés dans la double explosion dans le port de Beyrouth mardi. Nouveau bilan provisoire communiqué par le parquet de Paris qui a élargi son enquête après la mort d'un ressortissant français dans ce drame. Emmanuel Macron est sur place depuis la mi-journée. Il promet de contribuer à l'organisation de l'aide internationale. Prise à partie par la population libanaise pendant un bain de foule, il a promis qu'il allait proposer un nouveau pacte politique aux responsables du pays. Il les appelle à lutter contre la corruption, à procéder à des réformes au plus vite, sans quoi le pays sombrera encore plus dans la crise. Justement, la situation au Liban, ce sera le thème du débat des grandes voix dans votre grand journal du soir sur Europe 1 dès 18h30. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions en appelant le 3921. Un policier de 43 ans tué au Mans dans la Sarthe ce matin alors qu'il tentait d'interpeller un conducteur ivre. Ce dernier l'a percuté et traîné sur la voie alors qu'il prenait la fuite. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place ce matin. Les obsèques de Gisèle Halimi, aujourd'hui, elles ont été célébrées à Paris en présence de plusieurs centaines de personnes. L'ancienne avocate, figure féministe, est morte le 28 juillet dernier. Elle avait 93 ans. Une évacuation a eu lieu près du massif du Mont-Blanc, côté italien, au niveau de Courmayeur cet après-midi. Un morceau du glacier des Grandes Jorasses menacé de s'effondrer à cause de la chaleur. Un volume de glace estimé à 500 000 de mètres cubes. 70 personnes ont été évacuées, majoritairement des touristes, mais aussi des résidents. Dans le Pas-de-Calais, à Tilloy-les-Mauflaines, c'est près d'Arras, une dame de 87 ans a été mise en examen. Elle est soupçonnée d'avoir aidé son mari à mourir alors que celui-ci était atteint d'un cancer en phase terminale. Son corps avait été retrouvé à son domicile le week-end dernier. Son épouse indique avoir mis fin à ses jours à sa demande. Elle a été placée en garde à vue pour homicide volontaire par conjoint. Un nouveau naufrage en océan Atlantique, celui d'un bateau qui transportait des réfugiés. Ça s'est passé au large de la Mauritanie. Une quarantaine de migrants se trouvaient à bord. Un seul d'entre eux a réussi à regagner le rivage. En Méditerranée, les opérations de sauvetage vont bientôt reprendre. Médecins sans frontières s'allie à l'ONG allemande Sea-Watch. Les deux organisations enverront une équipe en mer à bord d'un nouveau navire, le Sea-Watch 4. Les opérations de secours étaient arrêtées depuis début juillet, après le débarquement de l'Ocean Viking en Sicile. Et puis le gouvernement veut autoriser l'utilisation d'un insecticide jusqu'alors interdit pour lutter contre la jaunisse qui ravage les cultures de betteraves à sucre. L'emploi de ce nicotinoïde sera strictement encadré. Une modification législative est prévue pour cet automne. 17h, bientôt passé de 3 minutes sur Europe 1. Vous retrouvez Philippe Googler et son équipe direction l'Italie pour la seconde partie de votre émission.
Absolument Sophie, merci beaucoup. L'info revient tout à l'heure à 18h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nos escapades continuent tout de suite en toute sérénité avec Shiva, ménage et repassage à domicile.
Et si on partait, on est déjà bien parti, on a passé l'heure précédente en Polynésie, nous allons maintenant décoller juste pour le plaisir de rêver pour un des plus beaux endroits de la planète tout proche de nous, l'Italie.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Pour commencer ce voyage en Italie, j'ai envie de vous emmener dans un endroit mythique. Alors, les endroits mythiques sur cette planète, on rêve d'y aller, mais parfois, quand on y arrive, on est un peu déçu. On se dit qu'on n'imaginait pas ça comme ça, finalement, que bon, c'est chouette d'avoir vu, mais j'y reviendrai pas, ça peut arriver. Mais la ville où je vais vous emmener aujourd'hui, elle reste la plus belle. Le jour où elle décevra n'est toujours pas arrivé. Je vous emmène à Venise. Alors, petit conseil d'amis, si vous allez à Venise pour la première fois, je vous conseille d'y aller en train. Faites-moi confiance, c'est vraiment très important. Parce que Venise, vous savez, c'est 117 îles. 117 îles au milieu d'une lagune. Et lorsque vous y arrivez en chemin de fer, eh bien le train, il commence par surfer longuement au-dessus de l'eau. Et là, déjà, il se passe quelque chose. On ne voit rien de spécial, vous êtes juste entouré d'eau, il y a quelques petits bateaux, des oiseaux, rien de spécial. Mais Venise n'est pas loin, il y a quelque chose dans l'air. Et le moment féerique, magique, c'est le moment où vous allez arriver et sortir de la gare. Et je vous préviens, c'est un choc. D'un coup, à la sortie, sur les escaliers de la gare, vous quittez le monde terrestre. Et sous vos yeux, surgit un monde aquatique. Venise est là. De l'eau partout, des canaux à la place des rues, un ballet de bateaux incessant, pas une seule voiture, un son différent, et surtout des trésors d'architecture par centaines, un patrimoine incommensurable, une ambiance unique. Et tout cela en une seule image. Dès le premier coup d'œil, Venise se donne, comme ça, comme une émotion soudaine, dès la sortie de la gare. Alors la première chose que vous allez faire ensuite, j'en suis sûr, c'est rien. Vous allez être tellement fasciné par le spectacle que vous allez poser vos bagages et vous asseoir au bord du canal qui passe devant la gare et regarder Venise. Regarder Venise la première fois, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est pas prendre le bus, il n'y en a pas. C'est prendre le Vaporetto, ces vieux bateaux-bus qui serpentent sur les canaux, et partir à la découverte de la ville. Ou alors, vous pouvez prendre une gondole.
Gondola, gondola, signori, forza, andiamo,
la gondole, évidemment, on hésite parce que c'est quand même le truc hyper cliché. Et on se dit, quand on arrive, ça c'est pour les touristes, c'est pour les amoureux, mais peut-être pas pour moi. Eh bien, si. Même la gondole à Venise, c'est agréable, je vous le promets. Déjà, elle peut naviguer dans des petits canaux étroits, passer sous des ponts où les vaporettis ne passent pas, vous emmener dans des lieux secrets où il y a un silence total, juste quelques chants d'oiseaux et le murmure de la ville. Tout ça au ras de l'eau, au ras de la ville. C'est le calme absolu dans Venise, loin des foules. Et puis plus loin, quand vous avancerez à nouveau au carrefour des canaux étroits, vous entendrez le « ohé » des gondoliers. En fait, le « ohé », c'est leur klaxon pour éviter les collisions entre gondoles. Et puis, si ça touche un peu, les discussions s'engagent. Mais à l'italienne, vous voyez, ça parle beaucoup, c'est bruyant. Mais au finish, c'est marrant. Voilà, Venise, c'est comme ça. C'est ultra touristique, ultra beau, ultra cliché. Mais ça reste ultra sympa. Venise, pour toujours.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et encore plus de Venise, plus d'Italie. Tout de suite, sur Europe 1. J'adore l'illustration sonore, j'écoute en vous parlant en fait. Et nous sommes avec notre ami Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour parler de ce pays, l'Italie, Venise. Comment on peut repositionner les choses, Jean-Bernard ?
Bon, on sait que c'est en Europe, ça, il n'y a pas de grande surprise. On va quand même donner les dimensions de l'Italie, parce qu'on les sous-estime d'habitude. Est-ce que vous savez que c'est un pays qui fait quand même 1300 km du nord au sud ? C'est quand même beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup.
Il a la forme d'une botte, ça on le sait aussi. La largeur, 640 km de large au nord, là où c'est le plus évasé, et à peine 240 km au sud, là où c'est le plus étroit. Il y a énormément de côtes, plus de 7500 km de côtes, et au milieu de l'Italie, au milieu de cette longue botte, il y a une chaîne montagneuse qui forme l'épine dorsale du pays qu'on appelle la chaîne des Apennins.
Ah oui.
Il y a un autre massif montagneux au nord du pays, vous le connaissez tous, c'est les Alpes.
Bien
voilà,
sûr.
Donc il y a deux grands chaînes montagneuses en Italie, donc un pays qui est très accidenté en termes de relief. Et puis il ne faudrait peut-être pas oublier aussi qu'il y a des îles en Italie. Vous le savez, ça
L'île du Stromboli.
Alors, il y a les îles éoliennes avec le Stromboli. Il y a l'île d'Elbe, qu'on oublie toujours
un petit peu,
celle-là.
Très bien.
Et puis les deux grandes stars, la Sicile et la Sardaigne. Voilà.
Et Venise, c'est où ?
C'est en Lombardie, dans le nord.
Nord-Est.
Nord-Est, voilà, dans la région Nord-Est.
Vous avez eu un doute, vous
Non, j'étais en train de mettre la carte qui défilait dans mon cerveau et j'essayais de localiser. C'est bien au Nord-Est, c'est ça.
Très bien. Nous sommes en ligne avec une journaliste française installée à Rome depuis 17 ans. 17 ans qu'elle habite là-bas, qu'elle écrit sur ce pays cher à son cœur. C'est Catherine Cornet. Bonjour Catherine.
Bonjour Philippe, bonjour.
Ça me fait vraiment plaisir de vous entendre. Je sais que vous adorez parler de l'Italie. On était à Venise il y a un instant. Ce que je voudrais toujours dire de Venise, moi, c'est que ça ne déçoit jamais. C'est toujours une poésie, Venise. Comment vous la décririez-vous ?
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on y va, on se dit cette fois, il y aura trop de touristes. Cette fois, il fera pas beau. Cette fois, les canaux vont sentir mauvais. Cette fois, ça ne va pas aller. Et puis finalement, Venise, c'est tellement facile de quitter les lieux touristiques. C'est tellement facile de la rencontrer vraiment qu'on se fait avoir à chaque fois par Venise. Ouais. C'est-à-dire, c'est un lieu qui reste toujours toujours magique, ouais. Non ? Vous parliez tout à l'heure des canaux, c'est une ville dans laquelle on se perd tout de suite. Il faut jamais trouver de carte. On n'arrive pas. C'est tous ces 117 îles qui se mélangent sur des ponts, sur des canaux. Ça tourne de tous les côtés. On se perd. Et dès qu'on se perd, finalement, on quitte les lieux touristiques très facilement. J'ajouterais qu'en ce moment, Venise, c'est le paradis sur terre.
Oui, parce qu'il n'y a pas grand monde.
Tous les Romains, il n'y a pas grand monde. Et les Vénitiens sont en train, bizarrement, de se réapproprier la ville. Donc, c'est encore plus magique.
Ouais. Et c'est facile en ce moment d'aller en Italie depuis la France, il n'y a pas de souci ?
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, les frontières sont ouvertes. Après, ça, on ne peut pas encore le savoir. Mais pour l'instant, Venise, surtout l'Italie, est assez tranquille par rapport aux épidémies. Ouais. Donc c'est un endroit où en tout cas les Italiens, qui comme les Français ont décidé de rester en Italie cet été, vont à Venise pour finalement revoir une ville qu'ils ne sentaient plus parfois la leur avec tout le tourisme. Ouais.
Mais c'est vrai que les Italiens de Venise, les Vénitiens en plus, sont très sympas. C'est un truc qu'on n'imagine pas dans un endroit aussi touristique. C'est facile de boire un verre avec eux pour peu qu'on s'écarte un tout petit peu des sentiers touristiques.
Absolument, vous avez parlé de la bonne activité à faire avec des Vénitiens, parce que oui, les Vénitiens sont super sympas et en plus ils ont une habitude que les Français partagent très facilement, qui est celle de l'apéritivo. L'apéritif à Venise, c'est quelque chose qui est systématique, c'est très tôt, c'est à partir de 5-6 heures, parce que c'est une habitude de marin. Ouais. Et on peut très facilement aller boire un coup avec des Vénitiens, commencer à parler, et puis on le sait bien, après 2 ou 3 spritz, tout le monde parle la même langue. On n'a plus besoin de parler ni vénitien, ni italien. On s'entend tous très très bien.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est le pays du spritz.
C'est la ville du spritz. C'est absolument la ville du spritz. C'est là où, on ne sait pas exactement qui l'a inventé. C'est un mot spritz. Ça a l'air allemand. C'est allemand parce que c'est spritzen. C'était le mot que les Autrichiens utilisaient en fait pour rendre le vin blanc de Venise un peu plus léger. Donc il vaporisait, ce spruzzare. Ah, et okay. Donc c'est cet alcool qui est bu par tous les Vénitiens depuis toujours. Je sais qu'en France maintenant, c'est un cocktail qui est très connu, mais à Venise, on le boit depuis des décennies.
Ouais. Alors, l'Italie, en général, c'est un pays qui a très bien conservé son patrimoine. Il y a un nombre de villes magnifiquement conservées, incroyables. Est-ce que c'est parce que les Italiens ont pris conscience tôt de la valeur de tout ce qu'ils avaient, de la valeur de ce patrimoine ?
Ah oui, je crois que les Italiens, à part évidemment l'aspect économique, l'Italie vit de tourisme depuis 2 siècles, mais c'est simplement le tourisme a été inventé en Italie. Je ne dirais pas par les Italiens, mais le grand tour, ce qu'on appelait, ce que les Européens du Nord, les Anglais, je pense à Goethe, les Allemands, avec ses voyages en Italie, le grand tour, c'était ce voyage de l'Europe qui devait passer et finir obligatoirement en Italie, d'où le mot tourisme, grand tour, tourisme.
Ah, d'accord.
Et donc, C'est vraiment une situation, un pays qui, depuis le Grand Tour, a commencé au XVIIe siècle. Donc les Italiens ont très tôt compris que les étrangers étaient intéressés par ces vieilles pierres à Rome, par ce Vésuve à Naples, par Venise. Donc ils ont pris conscience très tôt et aujourd'hui, je crois qu'ils sont attachés culturellement et économiquement à leur patrimoine d'une façon très particulière, oui.
Oui, on retrouve d'ailleurs ce fantasme de l'Italie, hein, comme vous le décrivez. C'est vrai, c'est l'invention du tourisme. Il y a deux femmes en littérature française, George Sand et puis Madame de Staël, mm-hmm. qui ont fait deux romans, l'une Consuelo, l'autre Corinne ou l'Italie. C'était le premier, je crois, où on parle très bien de ce tour d'Italie et où c'est décrit comme quelque chose d'assez malsain. Hein. C'est un pays dit insalubre, mm-hmm. avec des mauvaises fièvres. C'est un mot qui revient souvent.
Bah, c'est sympa. Ça casse l'ambiance d'Italie.
Mais parce qu'à l'époque,
Corinne ou l'Italie.
Mais bien sûr.
C'était à l'époque.
Mais
hein.
C'est historique. Mais je vous parle du 19e siècle.
Mais ça s'explique. Corinne ou l'Italie de Madame de Staël est un livre d'ailleurs que j'invite à lire parce qu'en réalité, c'est d'une très grande modernité. C'est un très beau livre.
Merci beaucoup.
Mais c'est surtout que l'Italie est un pays de paludes. Donc, ouais. En réalité, par exemple, entre avant le 19e siècle et avant Mussolini, et avant la bonification des terres, par exemple, aller de Rome jusqu'à Naples, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est aujourd'hui à 1h40 de train, mais c'est extrêmement dangereux parce que ce n'était que palude. Donc,
malaria,
moustique, donc malaria. Donc, oui, effectivement, c'était un endroit dangereux. Oui.
Merci.
Vous avez raison.
Catherine, vous restez avec nous. On va continuer à explorer l'Italie avec vous dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes en Italie, toujours en ligne avec Catherine Cornet, qui est une journaliste installée depuis des années en Italie et qui nous raconte ce pays. Et puis, moi, il y a un lieu que j'aime vraiment beaucoup dans ce pays, c'est la baie de Naples. Alors, pour moi, c'est une des plus belles baies de Méditerranée, une immense baie dominée par une montagne puissante, magnifique, qui est le Vésuve, et qui est bien sûr aussi un volcan à l'origine de la destruction de Pompéi. Alors, cette histoire est bouleversante, vous le savez. Ça s'est passé un matin de l'an 79. La vie était plutôt tranquille et tout à coup, un bouchon de lave durci qui bloquait le cratère du Vésuve saute. Et là, c'est une pluie de cendres et de pierres ponces qui s'abat sur la ville de Pompéi, qui est au pied du Vésuve. Une intense pluie de pierres qui s'accumule sur plusieurs mètres de hauteur. Alors, il y a les habitants qui essaient de s'enfuir. Il y en a beaucoup qui s'enfuient, d'ailleurs. Certains en mettant, d'ailleurs, des coussins sur leur tête, attachés à leur menton, pour se protéger des pierres. Et puis, il y en a qui pensent que leur maison va résister. Et c'est une tragique erreur, car les pierres qui arrivent au début sont plutôt légères, mais avec l'accumulation, au finish, les maisons vont s'effondrer sous le poids des pierres. Et puis, il y a ceux qui se réfugient dans leur cave, en se disant que là, ils seront à l'abri. Et là aussi, c'est une tragique erreur. Parce qu'il va y avoir une deuxième vague. La vague des gaz et des cendres brûlantes qui vont tout à coup dévaler du volcan. Des gaz et des cendres qui sont à 400 degrés et qui se déversent à toute vitesse sur la ville de Pompéi et qui vont brûler tout ce qui se trouve là, les habitants y compris. C'est la fin. Il va y avoir des milliers de morts. Et ce qu'il y a de particulièrement touchant, c'est que tous les matériaux qui sont venus de l'éruption vont, sur les années, constituer une couche protectrice de plus de 7 mètres. Et donc, Pompéi, au cours des siècles, a été protégée en quelque sorte, protégée des pillages et des intempéries. Et quand les fouilles vont mettre la ville au jour, eh bien, on va découvrir une cité comme figée au moment exact de l'éruption, il y a près de 2000 ans.
Et si on partait sur Europe 1
Et ça se visite aujourd'hui. Au cours de la visite, vous allez pouvoir avoir cette sensation assez étrange de parcourir une ville encore habitée, puisque la plupart des édifices et la majeure partie de la décoration des maisons sont encore conservés. Et le plus fou, c'est que les habitants qui ont été saisis d'un coup par les gaz brûlants, eh bien leurs corps se trouvaient sous les cendres. Et les cendres qui ont durci ont donc moulé leur corps. Puis les corps à l'intérieur des cendres durcies se sont décomposés. Ça a donc créé un vide dans les cendres durcies. Et donc, il y avait la forme des corps en creux dans ces cendres, la forme des corps de ces malheureux habitants dans les cendres durcies. Et il y a un archéologue italien qui s'appelle Giuseppe Fiorelli qui a fait couler du plâtre dans ces creux. Et le plâtre a donc pris la forme exacte des corps. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé visuellement, dans la position exacte dans laquelle ils sont morts, les habitants de Pompéi, recroquevillés ou en train de se protéger ou de protéger leurs enfants, ou même on a retrouvé des amants enlacés. Et tout ça est très troublant. Pompéi, c'est beaucoup plus qu'une visite, c'est une rencontre avec des gens comme vous et moi, qui ont vécu un drame il y a bientôt 2000 ans.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Et c'est ça l'Italie, ce sont des découvertes extrêmement chargées en émotions. Nous sommes avec Catherine Cornet, qui est journaliste, installée en Italie depuis 17 ans. Alors on vient de parler, Catherine, de Pompéi, qui est vraiment toujours aussi troublante quand on la visite. Mm-hmm. Mais juste à côté de Pompéi, et toujours aux côtés du Vésuve, il y a Naples, qui elle est très vivante et qui vit elle aussi dans la menace du volcan.
Oui, Naples, c'est vraiment une ville tellurique, si vous y êtes allé. C'est-à-dire que c'est une ville qui va à 100 à l'heure, où les gens, je dirais finalement, n'ont pas peur de mourir. Alors c'est vraiment quelque chose, ils habitent encore sous ce volcan que vous décriviez là, si bien. À l'époque de Pompéi, les habitants pensaient que c'était une montagne. Aujourd'hui, on sait que c'est un volcan. Mmh. On sait pertinemment que c'est le volcan le plus dangereux qui existe en Europe. C'est un volcan extrêmement actif, c'est-à-dire qu'on est sûr que ce volcan va se réveiller un jour. Et pourtant, il y a environ 800 000 personnes qui vivent sur le flanc du volcan, risquant finalement leur vie tous les jours.
Et ils le savent, ils en ont conscience ou...
Absolument, absolument conscience. Les flancs du volcan, en même temps, sont d'une fertilité extrême, puisque la terre volcanique est extrêmement bonne. Donc l'agriculture est fantastique. On a ces petites tomates, cerises, qui viennent des flancs du Vésuve, qui sont les meilleurs qui soient. Oui, je crois que c'est une façon de vivre. Quand on pense que la vie pourrait s'arrêter comme ça, prise par le volcan, on vit différemment aussi.
Vous pensez que ça explique le caractère des Napolitains ?
Oui, moi je crois qu'ils sont très telluriques, ils sont très volcaniques.
Ils
sont volcaniques. On prend une Vespa à Rome, on a un casque, on a une ou deux personnes.
Oui, voire trois ou quatre. On a déjà vu quatre personnes sur un scooter à Naples. Hein, ouais.
On s'empile, on n'a pas de casque, on va vite, on n'a pas peur de la mort. Moi, je trouve que quand j'arrive à Naples, c'est ça que je ressens. C'est quelque chose. C'est une vie qui va très vite, ouais. Qui n'a pas peur, voyez, de se dire bon, ben demain c'est peut-être fini, c'est pas grave, on en profite.
Et alors, ce que j'aime bien à Naples, c'est que tous les clichés de Naples sont vrais. C'est-à-dire que il y a des scooters partout avec 15 personnes dessus, il y a du linge qui pend aux fenêtres, il y a des quartiers un peu sombres comme ça dans lesquels on a un peu peur, mais dans lesquels on a envie d'y aller. C'est tous les clichés sont vrais à Naples et ça continue.
Oui, et puis c'est moi mes quartiers préférés, c'est les quartiers espagnols, les quartiers espagnols, les quartiers d'en bas, parce que Naples fonctionne en vertical socialement. Les quartiers pauvres sont en bas, les quartiers très riches sont en haut. Quand on est en haut, on est ailleurs, on est sur une comme si on vivait dans une ville qui est d'une propreté incroyable, étincelante, où la bourgeoisie, l'aristocratie napolitaine vit de manière tout à fait différente. Les quartiers d'en bas, c'est encore quand même c'est vraiment un autre monde. Tout le monde vit dehors, ouais. Non, avec tout le monde sur la rue. Effectivement, c'est il y a plusieurs pays dans la même ville en plus, je trouve.
Ouais. Est-ce que en Italie, il y a toujours ce rapport à la famille très fort ? Là encore, ça fait cliché, mais est-ce que la mama italienne, elle est toujours là ?
Oui, Oui, je crois que
c'est vraiment...
la maman a sempre ragione. La maman a toujours raison. C'est une expression, mais c'est quelque chose, je crois, qui est sociologiquement vrai. Peut-être que ça correspond à une sorte finalement de matriarcat italien. On pourrait en parler, on pourrait en discuter, parce que c'est vrai que la maman a toujours raison. Elle a une place fondamentale. Aujourd'hui, par le fait aussi des questions économiques, les jeunes Italiens restent à la maison jusqu'à très 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 tard. Ouais. On a des jeunes Italiens qui à 35 ans quittent leur famille. J'ai un ami qui a quitté sa famille à 35 ans il n'y a pas longtemps. La maman a pleuré tous les jours en faisant la vaisselle, en disant « mon fils s'en va ». Oui, c'est une réalité qui a été en plus aggravée par la situation économique, je dirais.
Oui, et moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est que, quand, par exemple, les Italiens vont manger au restaurant, ils disent « c'était bon, presque aussi bon que chez la mame
». C'est vrai. Il n'y a pas personne ne fait les pâtes comme la mame. Mais ça, je pense, en plus, ça vient du fait de la gastronomie italienne qui, effectivement, est peut-être toujours et encore meilleure à la maison.
Oui, c'est vraiment une cuisine familiale, c'est vrai. Mm-hmm.
Ouais. Ouais.
Vous restez avec nous, Catherine Cornet. On va continuer à explorer l'Italie dans tous ses recoins, dans un tout petit instant, nous vivrons également les histoires particulièrement salées,
scabreuses
de Nathalie Hellal on va bien voyager sur les papes italiens. Et pour l'instant, on va se détendre un petit coup avec Paolo Conte sur Europe 1.
Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do. Do 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 do, chi boom chi boom boom, do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip, do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chi boom, chi boom, boom. Do 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 do. Chi boom, chi boom, boom. Do 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 do.
C'était Paolo Conte, Via con mi.
Europe 1, Philippe Googler.
Nous sommes en Italie sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous trépignons, Nathalie. Nous sommes impatients de savoir quelles histoires vous nous avez dégotées Surtout qu'elles viennent des coulisses du Vatican.
Oui, vous pouvez dire un petit coup de bunga bunga au Vatican même. Oui, carrément. Alors vous savez ce qu'on dit.
Sacrilège.
Hein. Oui, oui, je m'excuse d'avance hein, pour tous les croyants. Autre temps, autre mœurs. Et c'est particulièrement vrai dans le cas des papes qui n'ont pas toujours été aussi exemplaires que François, Benoît XVI ou encore Jean-Paul II. Alors, celui qui a le plus choqué ses contemporains, c'est Jean XII. Nous sommes au Xe siècle. Il a été carrément qualifié d'antéchrist siégeant dans le temple de Dieu.
Rien
ça vous
que ça.
Met tout de suite dans l'ambiance. Oui. Alors, il devient pape à l'âge de 18 ans. Et évidemment, il s'adonne immédiatement à la débauche. Il va transformer le palais du Latran, c'est-à-dire l'ancienne résidence des papes pendant des siècles, en véritable bordel. Je pèse mes mots. Il va être déposé par une assemblée d'évêques qui le déclare coupable de sacrilège, de meurtre, d'adultère et d'inceste. Et lui aussi a très très mal fini.
C'est-à-dire qu'on peut virer un pape?
Bah à l'époque on pouvait, alors je ne sais pas si aujourd'hui on le fait encore parce que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais en tout cas il a mal fini parce qu'il a été battu à mort par le mari d'une femme avec qui il était en train de forniquer. Et je suis en train de me dire que c'est la troisième fois que je prononce ce mot aujourd'hui. Forniquer, c'est un signe.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu pire.
Oui, il y a eu pire, les Borgia. Alors rien que le nom, vous êtes au parfum. La sinistre réputation de cette famille dans l'Italie du 15e siècle. C'est vraiment le symbole de la décadence de l'Église à la Renaissance. Une famille italo-espagnole hein, qui a fourni quand même deux papes et puis quelques autres personnages accusés en vrac d'empoisonnement, de fratricide, d'inceste. Et il y a une date absolument scandaleuse dans l'histoire des papes et qui concerne les Borgia. Nous sommes le 31 octobre 1501 et c'est le mariage de Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, qui est la fille préférée du pape Alexandre VI. Ne me demandez pas pourquoi il avait des filles ou il avait six enfants. Enfin, à l'époque, ça devait passer, j'imagine. Il avait six enfants illégitimes. Alors, on a dit d'ailleurs que Lucrèce couchait avec son père et aussi avec son frère. Vous voyez un peu la famille sympathique.
Oh là là, mais c'est pas possible. Alors, c'est pas...
elle épouse Alphonse Ier d'Est, qui est le futur duc de Ferrare. Et puis, bon, il y a un festin gigantesque, bien évidemment. Et puis, à la fin de ce festin, où des dizaines d'invités mangent et boivent sans retenue, apparaissent soudain une cinquantaine de danseuses avec des chorégraphies plutôt lascives. Elles se déshabillent. Et puis là, il y a des domestiques qui leur jettent des châtaignes à la volée.
Des châtaignes?
Oui, ils leur jettent des châtaignes. Évidemment, avec l'ordre de les ramasser, elles se mettent à quatre pattes pour les ramasser. C'est attesté, hein, ce que je raconte. C'est un prélat qui a raconté tout ça. Alors évidemment, les convives sont aux anges. Et puis là, le pape... tout est grillard, il improvise un concours de virilité, il promet de magnifiques cadeaux aux convives qui vont manifester le plus d'ardeur. Et bientôt, on fornique, quatrième fois, dans tous les coins.
Oui, mais c'est pas possible.
Je vous assure. Alors, Lucrèce, César et puis le pape, leur père Alexandre VI, apprécient évidemment la soirée. Les gagnants du concours reçoivent leur prix. Il faut dire qu'Alexandre VI Borgia est un habitué du genre parce que depuis son élection en 1492, les prostituées se sentent chez elles au Vatican.
Les prostituées au Vatican ?
Ben oui, parce que figurez-vous que sans elles, sans les prostituées, il n'y aurait pas eu de chapelle Sixtine. Je m'explique. Pour renflouer les finances du Vatican et pour payer les corporations qui travaillaient sur la chapelle qui portera son nom, le pape Sixte IV, on est au 15e siècle, a eu l'idée géniale de taxer toutes les prostituées et les prêtres qui vivent en concubinage dans les états pontificaux, y compris à Rome. Et cette taxe va rapporter au Vatican 30 000 ducats d'or par an. C'est une véritable fortune. On dirait aujourd'hui qu'un ducat d'or, c'est environ hein, plus ou moins 5 euros. Et selon les données statistiques de 1477, donc l'époque à laquelle ça se passe, il y avait à l'époque 6300 prostituées reconnues officiellement. Et évidemment, beaucoup, beaucoup de célibataires, donc de clients potentiels.
Mais c'est dingue.
Alors ce pape qui est absolument fou, ou plutôt pas fou, parce qu'il a bien le sens financier bien ancré, bien chevillé au corps, donc Sixte IV, il va décider même de profiter de cette manne financière en acquérant une maison close et en devenant proxénète.
Mais je vous assure. Mais c'est dantesque.
Mais c'est l'histoire, c'est pour ça que j'aime autant l'histoire, Philippe, ça regorge de choses tellement croustillantes qu'on se dit mais c'est pas possible, mais quelle imagination débordante. Mais non, c'est vrai.
Mais c'est incroyable. Et donc la chapelle Sixtine, c'est...
Bah, financée grâce aux prostituées.
Une taxe sur les
prostituées. Mais l'église a possédé beaucoup de bordels. Je vous en parlerai peut-être un autre jour.
Faut créer une série, Nathalie. Faites-nous quelque chose.
Le podcast des bordels de l'église.
C'est dingue.
Oui, un peu scandaleux sur les bords.
C'est dingue. Catherine, on sait, vous êtes depuis l'Italie avec nous en direct. Catherine Cornet, on sait tout ça en Italie. C'est de notoriété publique, alors... c'est normal, c'est...
Alors, la chapelle Sixtine et les prostituées, c'est quand même très connu.
Oui. Ah ouais?
Oui, c'est quelque chose qui est... vous savez, à Rome, en réalité, et là, je ne parle pas pour l'Italie, mais je parle de Rome, il y a un aspect... le pape, c'est pas vraiment une figure religieuse comme ça pourrait être pour tous les catholiques du monde. C'est quand même le roi de Rome. Ouais. C'est quelqu'un, c'est un souverain qui a toujours été là, c'est cet État qui a toujours été là. Et on sent qu'il y a une habitude avec le pape, il y a un rapport avec le pape qui est vraiment différent, je pense, de celle que peut avoir un catholique qui ne le voit que comme une entité religieuse. Mmh. Moi, j'assistais à la mort et à la mort de Jean-Paul II quand... Quand Jean-Paul II est mort, 24 heures plus tard, tous les Polonais étaient venus avec leurs brabants, toutes leurs voitures. Ils avaient dormi sur les bords du Tibre. On voyait leur visage détruit. Ils chantaient des chansons. C'était vraiment très, très, très spirituel. C'était très beau. Quand le pape ensuite a été, quand on a élu le nouveau pape, quand les Romains sont arrivés, vous aviez la fumée blanche, la fumée noire, etc. Quand les Romains sont arrivés pour l'élection et qu'ils se mettaient à hurler « Viva il Papa !»« Vive le Pape !» « Vive le Pape !» sans savoir son nom, on s'attend plus à voir sortir le roi de Rome que son pape. Vous voyez, on sent quelque chose qui est plus séculaire finalement que très religieux. C'est le pape, il est là, et on le voit souvent. C'est normal, il est là tous les mercredis. Donc c'est quand même quelqu'un qui est plus réel et plus concret, je pense, pour un Romain que pour les catholiques du monde.
Merci beaucoup, Catherine. Vous parlez super bien de l'Italie. On vous gardera bien deux heures encore. Merci.
C'est l'amour.
Merci d'être intervenu et de nous avoir raconté tout ça. À très bientôt, j'espère, pour parler une prochaine fois de l'Italie.
Oui, à très bientôt.
Au revoir, Catherine.
Au revoir.
Dans un petit instant, on parlera des saveurs italiennes avec Emmanuel Jarry et bien sûr toute la bande de voyageurs. À tout de suite sur Europe 1. Nous voyageons ensemble tous les après-midi sur Europe 1 entre 16h et 18h et nous sommes maintenant en Italie. Et voilà, on est tout de suite de bonne humeur. Et on mange bien en Italie, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on mange bien dans ce pays? Ils sont presque un peu vexants pour nous, Français, parce qu'ils sont vraiment en compète avec nous. Hein. Ils sont très forts.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont forts. Et en préparant la chronique, c'était cornélien de faire des choix, tellement il y a des bonnes choses partout. Alors, on a déjà beaucoup parlé de Venise, mais je vais quand même en parler aussi un petit peu côté saveur, parce que Venise a sa cuisine, beaucoup de poissons, de fruits de mer. Il y a le risotto de Gao, qui est un risotto de poisson. Il y a la brandade vénitienne. Et alors, surtout, qu'est-ce qu'on boit avec tout ça? Il y a un vin dans la lagune de Venise, Orto di Venezia, qui est un vin qui n'est pas si connu que ça. C'est le vin de Venise, de la lagune. Il a une histoire étonnante, mais bien souvent, quand on parle de ce vin, on en oublie de parler du vin parce qu'on raconte toujours l'histoire avant. Alors moi, d'abord, je voudrais dire que c'est un vin blanc de garde, ce qui n'est pas la culture italienne. Il a vraiment une belle fraîcheur. Je vais vous l'apporter pour que vous puissiez le goûter.
Oui, d'ailleurs.
On est en train de découvrir.
Il a une belle fraîcheur en bouche. Il a beaucoup de minéralité et c'est pour ça que je l'apprécie.
Il est très bien pour l'été.
Voilà, c'est ça. Alors, ça tombe bien, c'est maintenant. Il y a quelques notes salines, ce qui est rare et en fait, qui s'accordent bien donc, avec aussi les moëqués, hein, ces crabes mus de la lagune. Ouais. Et voilà. Voilà.
Les crabes mous, les crabes sans coquilles.
Ouais, exactement.
Ah, ouais. En carapace, je veux dire.
En fait, on les pêche avant. On les pêche avant la mue, on les met dans des boîtes en bois et puis on attend qu'ils muent et là on les retire un par un. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont si chers, c'est 80 euros le kilo parce que comme c'est un travail manuel, il faut les retirer avant que les gros crabes ne les mangent.
Et donc c'est au moment où le crabe mue, il sort de sa carapace et on le chope là, à ce moment-là et on le mange là.
Et en fait on les fait frire et tout. Alors Orto di Venezia, c'est parfait avec ce genre de cuisine. Et voilà. Et en fait, c'est un vin qui, je le disais, qui a une histoire incroyable. Alors, je vous la raconte. En fait, le vignoble se trouve au nord de la lagune. Donc, c'est sur l'île de San Terrasmo. Alors, la République de Venise était intelligente parce que chaque île avait sa fonction. Mm-hmm. Il y avait Murano pour le verre, Burano pour la pêche et la dentelle. Il y a une île cimetière qui existe toujours, San Michele. Et il y avait San Terrasmo qui était en fait l'île qui nourrissait Venise. Encore aujourd'hui, c'est là une île maraîchère où on cultive énormément de légumes. Ils sont très réputés dans tout Venise, mais aussi en Italie. Les fameux castraourets, par exemple, c'est les petits artichauts qu'on récolte sur
qui
cette
sont
île
délicieux.
Uniquement voilà sur cette île. Et alors, quand le propriétaire de ce vin Orto di Venezia, qui est d'ailleurs un Français, Michel Toulouse, lorsqu'il a acheté sa maison sur l'île, les paysans sont venus le voir et lui ont dit « mais t'as les meilleures terres, il faut faire quelque chose ». Alors, il a retrouvé d'anciens documents qui parlaient du vignoble du noble homme. En fait, au XVIIe siècle, il y avait des vignes sur cette île, avant le phylloxéra. Et donc, en 2006, il a décidé de refaire vivre ce vin. Il a travaillé avec Claude et Lydia Bourguignon, qui sont, je ne sais pas si, pour ceux qui les connaissent, les grands spécialistes des sols, avec Alain Graillot, aussi grand vigneron à Crozes-Hermitage. Et ensemble, ils ont essayé de restituer les caractéristiques de ce terroir unique au monde. Alors, on écoute Michel Toulouse qui nous en parle.
Le terroir est très complexe. Il y a du calcaire, il y a de l'argile, et il y a surtout les sédiments apportés par les rivières dans la lagune, les sédiments des Dolomites. On a travaillé avec Claude et Lydia Bourguignon pour la préparation du terrain. On a planté front de pied, c'est-à-dire pas sur porte-greffe, comme on le faisait avant le phylloxéra. Et on le fait le plus naturellement possible, et surtout, on n'a pas d'œnologue. Parce qu'on pense qu'un œnologue, pour justifier sa présence, vous rajoute des choses dans le vin. Donc on a cherché à faire un vin le plus proche possible du jus de raisin fermenté.
Donc voilà, un jus de raisin fermenté, mais qui a une belle complexité.
Oui, c'est bien fermenté, c'est finement fermenté, il n'est pas mauvais.
J'ajoute que c'est vraiment un vin ultra naturel, il n'y a rien, il n'y a pas de rajout.
Et alors, évidemment... vous êtes en train d'expliquer que pour avoir un bon vin en Italie, il faut un Français.
Ah non.
C'est ça, c'est votre démonstration.
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a un très très grand, enfin des grands vignobles en Italie. Moi j'aime bien les vignobles du Nord, mais d'ailleurs ce vin n'existe, il y a que des vins blancs. Orto di Venezia, c'est uniquement un vin blanc. Alors vous pouvez aller visiter ce domaine sur l'île de Sant'Erasmo, c'est un des plus beaux endroits que je connaisse. Moi j'ai dégusté Orto di Venezia en regardant la lagune, c'est un instant magique, et puis si vous n'y allez pas, vous pouvez commander ce vin, ce que j'ai fait, et donc voilà, vous le dégustez ici. Peut-être ça vous fait décoller, enfin partir pour la lagune en buvant.
Oui, très bien. Avec modération, tout ça, évidemment.
Avec modération, bien sûr.
Et alors, après le vin, qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors, je voudrais vous parler du vinaigre. Donc là, c'est vrai que c'est
vinaigre.
Oui, on pourrait penser le grand écart, parce que vous savez, le vinaigre, c'est le vin qui a mal tourné, vin aigre. Mais là, je vais vous parler.
Ah, j'avais jamais pensé.
Ah, bah oui, c'est ça.
Le vinaigre, c'est le vin aigre.
Ouais, ouais.
Mais alors, écoutez, il a fallu que j'attende ce jour pour comprendre ce mot.
Mais sauf que le vinaigre dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment un petit bijou, un joyau. C'est le vinaigre balsamique traditionnel de Modène. Donc là, on est en Émilie-Romagne. Alors, on connaît tous le vinaigre balsamique, et c'est pas forcément bon. Mais là, je vais vous parler du vinaigre traditionnel. Je dis pas
le vrai. Le balsamique, c'est vrai que c'est le truc qu'on trouve en supermarché.
Bah voilà, parce que alors ça,
c'est souvent décevant.
Oui, mais parce que ce n'est pas le vinaigre traditionnel. Il y a des gens qui disent le vrai et le faux. Moi, je ne rentre pas dans ce débat et je suis pas d'accord avec ça, parce que l'autre, il est vrai aussi, mais il est pas fait de façon traditionnelle. Et c'est toute cette façon de le faire qui va changer le vinaigre. Alors ce vinaigre, il est élevé traditionnel, il est élevé dans des fûts pendant 12 ans et minimum et jusqu'à 25 ans. Ça, c'est, alors 12 ans, c'est pour avoir le droit à l'appellation traditionnelle, et 25 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un quart de siècle.
Un quart, il doit coûter une fortune.
Ah oui. Alors ça, oui, il vaut très très cher. Et donc voilà, 12 à 25 ans pour fabriquer ce vinaigre.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pendant toutes ces années?
Ben alors en fait, il est transvasé de fût en fût. Alors on commence par des grands fûts qui font 60 litres et petit à petit, on le transvase dans des fûts plus petits, 50 litres, après l'année d'après 40 litres et on va comme ça jusqu'à 15 litres. Et chaque fût est fait d'un bois différent.
Donc par exemple, mais pourquoi ça réduit? Je ne comprends pas.
Ben parce que ça s'évapore.
Ah, ok.
En fait, justement, il y a des bois qui sont moins durs et donc qui permettent l'évaporation, des bois plus durs qui vont permettre la concentration. Donc chaque bois a une fonction et puis va donner un goût. Il y a du châtaignier, du frêne, du cerisier, du mûrier, du genévrier. Et donc voilà, petit à petit, vous imaginez 25 ans, donc on part avec 60 litres, on se retrouve avec 15 litres et évidemment, bah, on se retrouve avec un vinaigre qui est très épais, qui est très sirupeux et toutes les essences de bois lui ont apporter sa complexité aromatique. Et ces fûts sont toujours entreposés dans les greniers des maisons, là où il y a des grands écarts de température entre l'hiver et l'été, justement pour permettre tout ce travail du bois.
D'accord.
Alors... Donc pendant toutes ces années, le maître vinaigrier bichonne son vinaigre. On est presque dans le vin là parce que c'est un produit tellement rare. Et puis au bout de ces années, il le fait déguster à un jury pour savoir s'il est prêt à être vendu. Et s'il n'est pas prêt, ben on lui dit, ben non, vous repartez comme ça dans l'élevage pendant plusieurs années. Et alors moi, j'ai dit, mais c'est fou, parce qu'on a déjà passé 25 ans, on recommence. Et on m'a dit, oui, mais à Modène, le temps n'est pas chronologique, mais organoleptique.
Le temps n'est pas chronologique, mais organoleptique.
C'est beau, ça.
Vous avez 3 heures.
Bon. Oui, c'est ça. C'est...
Mais Emmanuel, est-ce qu'il y a une dégustation qui est prévue de ce petit bijou?
Non, parce qu'on ne peut pas boire à la fois du vin et du vinaigre. Donc
c'est vrai.
Voilà, je vous
c'est
en ai
vrai,
parlé.
C'est vrai,
et
c'est
puis,
vrai.
Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir évoqué ces bons produits italiens. Dans un tout petit instant, on va retrouver Jean-Bernard Carrier et ses bons conseils pour visiter l'Italie. Juste à présent, un petit Lilicube et voyage en Italie, évidemment, sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Un beau voyage en Italie avec tous nos amis voyageurs dans Et si on partait. Alors, Jean-Bernard Carrier, l'Italie, c'est bientôt le 15 août. Comment on fait pour en profiter ? Est-ce qu'il y a des fêtes ?
C'est la grande fête en Italie, c'est la fête de la Vierge Marie, la Madone. Non, c'est pas vous, Nathalie.
T'es sûr ?
Non, c'est pas vous, je pense pas. Ouais. Alors, la Madone, c'est l'Assomption.
C'est-à-dire que Nathalie se prend pour la Vierge Marie, si j'ai bien compris.
Moi, je vois
c'est
la Vierge
ça
tous les jours, je finis par croire qu'elle est ma sœur ou mon double.
Ah, okay.
On va faire un pèlerinage vers vous, Nathalie.
Alors, c'est ça.
L'Assomption se dit Ferragosto en Italie. Le 15 août, c'est Ferragosto en Italie. C'est une fête qui est très suivie. Beaucoup de ferveur, des processions, des feux d'artifice, des concerts.
Ouais.
C'est vraiment le moment où il faut aller en Italie si on veut s'immerger dans un côté festif.
Et ça, c'est partout ?
Alors, c'est partout, mais moi j'aime bien cette ambiance de la ville de Sienne en Toscane. Le dimanche 16 août, donc c'est le lendemain de l'Assomption, vous avez le fameux Palio.
Extraordinaire.
Cette course de chevaux sur la place centrale de Sienne. 10 cavaliers qui montent à cru et qui font 3 fois le tour de la place.
Ouais.
Chaque cavalier a un vêtement d'une couleur différente qui représente un quartier différent de la ville. Ça dure pas très longtemps, quelques minutes seulement. Mais c'est d'une folle intensité. Il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées là. Les places valent très très cher parce qu'elles sont réservées longtemps à l'avance. Et puis c'est même un peu dangereux. Il y a souvent d'ailleurs des chutes de cavaliers dans les virages. Voilà, spectacle très particulier.
Très spectaculaire. Et il faut se mettre dans les bâtiments en hauteur.
En hauteur.
Pour
on peut louer
voir
des balcons en fait pour voir le spectacle.
Et les quartiers qui ont perdu pleurent le soir.
Mais ils se font humilier. Et il y a même parfois des rixes autour de ça. C'est tellement pris au sérieux que chaque quartier s'affronte. Voilà, ça peut parfois dégénérer.
S'il faut choisir des villes, alors toujours très difficile en Italie. Moi, ma préférée, c'est Naples. Je vous le dis tout de suite. Et vous ?
Eh ben, c'est pareil.
On est d'accord.
Vous êtes encore une fois de plus,
oui, c'est ça.
Non, c'est vrai que je préfère Naples parce que c'est une ville déjà que j'ai explorée de fond en comble et j'ai adoré cette ambiance gentiment bordélique, pour rester poli.
Oui, pas que gentiment, c'est vraiment bordélique.
Et puis, il y a ce côté, c'est un petit peu la Marseille de l'Italie, Naples. Hein. Naples, elle vit sa vie, elle est très différente du reste du pays, un côté rebelle, insoumis. Et puis, comme l'a dit notre invité fil rouge, il y a côté intensité théâtrale là-bas, tout prend des proportions absolument dingues. La rue est un spectacle. À Milan, vous voyez le lapsus, la rue est un spectacle à Naples, c'est ça qui est fabuleux. Voilà. Alors vous avez parlé de Pompéi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous avez merveilleusement bien raconté ce site extraordinaire. Moi, ce que j'ai adoré au centre-ville de Naples, ce sont les marchés alimentaires et notamment le marché de la Porta Nolana, qui est spécialisé dans les poissons. On se croirait dans un souk, vraiment, un souk d'Afrique du Nord. Les maraîchers warangues, en napolitain pour le coup. Il y a des têtes d'espadons qui sont perchées sur des montagnes de sardines. Il y a plein de coquillages, des poulpes, le tout au milieu d'effluves d'agrumes. Et puis, Emmanuel, les sfogliatelles.
Quelle
merveille ça, les feuilletés à la ricotta, ça sent super bon aussi.
Nathalie
tout
adore.
Sorti du four.
C'est la ville qui a vu l'invention de la pizza surtout.
Et complètement.
Et ça, c'est extraordinaire d'en manger une dans les rues de Naples.
Il y a des adresses mythiques pour les pizzas.
Des adresses cultes. Il y a des adresses mythiques, mais attention, il y a aussi des mauvaises pizzas à Naples.
Ah bah oui, il faut le dire aussi.
Mais nous, on connaît les bonnes adresses.
Alors, on a évoqué le Vésuve tout à l'heure avec Pompéi, parce que l'Italie, c'est le pays des volcans.
Eh bien, exactement, et ça, on l'oublie.
C'est quelque chose actif.
C'est quelque chose d'unique en Europe. En France, on a des volcans, mais ils sont tous éteints.
Ils sont endormis.
Vous avez raison.
La nuance
est de taille. En Italie, ils sont actifs. Alors, on a parlé du Vésuve, mais moi, j'aime bien l'Etna. Côté sicilien, en Sicile, le volcan le plus actif d'Europe. Un monstre qui culmine à 3329 mètres d'altitude. Très impressionnant. Les Siciliens ont un rapport symbiotique
religieux, c'est quasi une dévotion, l'Etna. Une Sicilienne m'a dit récemment, l'Etna, c'est la terre qui a des choses à me dire.
Ah, c'est beau ça.
C'est beau, voilà. Donc ils ont un rapport très ambigu, c'est à la fois une source de richesse, puisque les terres sont très fertiles, et en même temps c'est une force dévastatrice, et les Siciliens vivent avec cette ambiguïté en permanence.
Ouais. Voilà. Comme les Napolitains avec le Vésuve.
Exactement, et ça c'est fascinant parce que nous on n'a pas trop l'habitude de ça en France, et quand on est sur place, on sent cette espèce d'ambiance différente, ce rapport à la mort qui est différent.
Ouais. Mais c'est un truc qu'on trouve partout sur Terre, quand les gens vivent dans des lieux dangereux, il y a un rapport à la vie qui est très différent et qui est très fascinant, très agréable presque.
Ça nous resitue nous-mêmes, qui ne sommes pas dans des endroits comme ça, c'est vraiment une leçon de vie. Voilà. Ouais. Alors l'Etna, ce qui est génial, c'est qu'on peut l'aborder sous plein de coutures. Par exemple, Philippe, je pense un petit peu à vous, là, parce qu'il y a un train qui fait le tour de la base du volcan, 114 km, qui est très sympa, vous pouvez descendre un petit peu partout où vous voulez.
Après, il ne monte pas sur le volcan.
Alors, il ne monte pas sur le volcan. On peut aussi faire le tour en voiture, il y a une route scénique, une route touristique qui fait le tour de ce volcan.
Le train d'ailleurs qui fait le tour du volcan, il y a un passage très impressionnant, c'est qu'il passe au milieu des coulées de lave qui ont durci. Et vous avez des blocs de lave à droite et à gauche du train, c'est très impressionnant.
Impressionnant. Alors on peut aussi s'approcher des quatre cratères au sommet, sans trop d'efforts, c'est ça qui est pas mal. Par la face sud du volcan, on prend un télécabine et ensuite un minibus 4x4 qui vous mène à 3000 mètres d'altitude, vous êtes tout près du sommet. Le paysage est complètement lunaire, on marche sur les croûtes de lave, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire jusqu'à la fin de vos jours. Je conseille quand même d'y aller avec un guide qui vous donnera quand même quelques explications sur la volcanologie, c'est super intéressant. Petite anecdote quand même pour ce fameux Etna, on skie l'hiver sur les flancs de l'Etna, avec la Méditerranée à ses pieds, je vous fais quand même le descriptif au niveau des couleurs, la neige d'un côté, les coulées de lave qui restent visibles côté avec une couleur anthracite et le bleu de la Méditerranée. C'est quand même pas extraordinaire.
Ça fait envie, ça fait envie. Une autre région que vous aimez en Italie ?
Alors j'aime bien les Pouilles, c'est cette région qui est située dans le talon de la botte, vous savez, tout au sud, sur les bords de l'Adriatique. J'adore les villages des Pouilles et il y en a un qui sort du lot. Alberobello.
Ah oui, les Trulli,
c'est unique au monde ça. C'est Trulli, les Trulli, c'est des maisonnettes rondes en pierre sèche qui sont coiffées de toiles coniques, croirait, espèce de décor de conte de fées. Il y en a 1500 comme ça dans le village.
On dirait les maisons des Schtroumpfs.
Ouais, complètement. Voilà, il y a une ambiance bande dessinée là-dedans. Enfin, c'est incroyable. C'est bien sûr inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est protégé. Et puis pas très loin d'ici, si on peut aller du côté de la région des Basilicates, c'est la ville de Matera qui est réputée pour les sassi, c'est des grottes naturelles qui sont creusé dans la roche avec des habitations qui ont été construites là-dedans. Vous voyez, il y a des choses extraordinaires dans cette Italie.
Et la façade maritime, il faut en parler aussi.
Alors, on va aller du côté de la Sardaigne, parce que j'ai voulu vous trouver une super plage, Philippe. Je sais que vous aimez ce côté eau bleue, translucide, turquoise. Eh bien, c'est les îles de l'archipel de la Maddalena, au nord-est de la Sardaigne. Les eaux émeraudes, scintillantes, cristallines, des criques secrètes accessibles à pied.
Merci beaucoup Jean Bernard, c'est un super voyage d'Italie, c'est pas loin et c'est formidable. Merci les amis d'avoir voyagé avec nous. Et ben on va se retrouver demain, repartir, reprendre la valise, on partira au pays du Sahara et des villes ocre. Nous irons ensemble au Maroc et puis en première heure demain aussi direction la Normandie avec évidemment le Mont-Saint-Michel et la terre des ancêtres de Walt Disney. On vous racontera cette aventure, tout cela demain à partir de 16h.